Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction, hein, podcast 101. Et oui, ça y est, nous sommes passés au podcast à trois chiffres. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment la classe. La semaine dernière, c'était un podcast forcément Célesto Cosmique, hein, le podcast 100. Un grand merci à vous tous, hein, qui avez été particulièrement nombreux, hein, quasiment plus de 500 messages dans les forums exprimer votre joie sur cet anniversaire finalement des podcasts, hein, plus de 2 ans en votre compagnie chaque semaine avec le podcast qui aujourd'hui est devenu le podcast numéro 1 du jeu vidéo en France, et ça nous fait vraiment plaisir, et ça on vous le doit vraiment. Un autre merci tout personnel, puisque vous le savez, le podcast 100 marquait aussi la mort, le décès de la fameuse table à repasser la plus célèbre d'Internet, qui va être très bientôt remplacée. Pour l'instant, nous enregistrons dans une salle en verre absolu, hein, un espèce de hub incroyable d'enregistrement avec ce son si mat qui qualifiera ce nouveau podcast.
Ça y est, il est parti.
Et puis donc, on vous avait donné un petit concours qui est en train de bien progresser d'ailleurs, pour gagner des dédicaces de Hideo Kojima, Yoji Shinkawa et Yumi Kikuchi, des dédicaces exclusives Metal Gear Solid. Et puis donc, on vous rappelle, hein, il faut faire des montages, soit de l'image, de la vidéo ou une photo avec une table à repasser, celle de votre choix, et quelque part, hein, le logo Gameblog, un petit peu comme ça en loose day. Vous avez été très nombreux déjà à réagir, à nous envoyer déjà, et on vous montrera dans quelques jours les premiers extraits, hein, de ce qu'on a pu recevoir. Et puis en marge de ça, c'est créé
beaucoup plus nombreux.
Voilà, encore plus nombreux. Une sorte de phénomène incroyable d'Internet, une sorte de buzz incroyable.
Sur ta gueule.
C'est un peu l'idée, voilà. Alors, c'est incroyable. Hein, des photomontages, plus de 500 photomontages, plus de 50 pages de forum, plus de 35 000 lectures. On a complètement halluciné.
Et un seul sourire.
Des gifs animés,
débile.
Des vidéos.
C'était pas prévu, hein, on l'a pas fait exprès. Et puis vous avez été particulièrement nombreux. En tout cas, un énorme merci pour toute cette créativité débridée.
Forum complètement hors sujet, fil de discussion, Julien est un modèle Célesto Cosmique.
Exactement, voilà, vous pouvez le trouver et continuer à l'abreuver, bien sûr, hein. On en reparlera, hein, d'ici quelques jours, on fera un grand récap avec les meilleurs, tout ça, enfin, vous verrez, parce qu'il y a eu carrément des jeux flash, hein, des vidéos, il y a eu des montages.
Et à cause de toi, on a tous pris.
C'est un peu l'idée, voilà, de tout le monde commence à être un petit peu caricaturé, et ça fait vraiment plaisir. On a été très surpris, mais en tout cas, ça nous a fait beaucoup rire.
Surtout, ouais, surtout bord de rire.
Les
ouais.
Grosses barres.
Ah ouais, ouais, nos abdos ont beaucoup travaillé la semaine dernière, et ça continue. Voilà, et bien ce podcast 101 maintenant va pouvoir donc débuter sur une thématique incroyable, les méchants cultes du jeu vidéo. On aurait pu l'appeler « Pourquoi sont-ils si méchants ?» Et bah, c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. On a répertorié de manière chronologique, vous allez voir, près d'une cinquantaine de boss ou d'ennemis absolument incontournables de l'histoire du jeu vidéo de 1979 à 2009. Donc ça nous fait quand même plus de 30 ans de jeux vidéo passés au crible, hein, vous allez voir. Et donc, bah, on va commencer par se poser quelques premières questions. Qu'est-ce qui fait un bon méchant de jeu vidéo ? Pourquoi la plupart des jeux vidéo sont-ils obligatoirement livrés avec un méchant final ? Eh bien, c'est ce qu'on va pouvoir voir. Et d'abord, on va commencer par une petite réflexion, hein, en marge des grands noms. C'est des catégories incontournables d'ennemis qu'on retrouve, qui ne sont pas forcément des boss, comme on les appelle dans le jeu vidéo, ça veut dire des figures emblématiques du méchant, mais des grandes catégories comme les zombies qu'on retrouve dans moult jeux. Hein,
D'abord, je crois qu'il y a les aliens, en fait, surtout.
Ouais.
Ça doit être ce qu'il y a de plus de...
Les aliens et les nazis.
Les aliens et les nazis, voilà. Ouais. Alors, les aliens, les nazis, les zombies... Est-ce qu'on a d'autres ?
Ah bah, l'arrivée massive ces dernières années des terroristes, qu'ils soient russes ou islamistes.
Ouais. Oui, on a épuisé un peu les nazis, en fait.
Oui, c'est ça.
Il y en a plus.
Il y a eu un petit peu les jaunes aussi. Enfin, les...
Ouais, puis après, c'était pas les très politiquement correct. Alors ça, ils ont arrêté.
Voilà.
Non, mais les nazis, je crois que franchement...
On va en reparler des nazis dans les...
Je pense que c'est un truc de faux.
Bien sûr. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ce soit extraterrestre, zombie, c'est deux catégories, on va dire, de méchants qui trustent de très loin la place des personnages à dégommer le plus dans
C'est jamais des chatons, par exemple ou
Non. Non, bizarrement.
Ouais, je comprends pas. Ah,
sauf si Angel pouvait nous parler furtivement de Furfighter, où là, c'est des chatons et des petits chats et des petits chiens qui se tirent dessus.
Son jeu préféré.
Qui crève.
Voilà. Mais c'était un épiphénomène, effectivement. Parmi aussi les personnages très marquants, il y a eu les grunts de Halo, Raon.
Ah oui, dans les familles d'ennemis, effectivement. Oui,
la stupidité.
C'est le genre d'ennemis que t'aimes défoncer, tellement ils sont débiles, ils font leur bruit bizarre, etc. Et cette IA, j'appelle ça de la stupidité artificielle.
Donc
forcément, quand tu leur colle une grenade aux fesses, ils retournent vers leur pote pour aller se faire péter avec. Mm-hmm.
Ils veulent pas mourir seuls.
Voilà. Ils sont marrants.
Ils sont pratiques.
Donc finalement, c'est des méchants qui sont effectivement restés rapidement, hein, se sont installés dans l'imaginaire collectif des joueurs. Hein. Bah, suite au succès d'Halo aussi, hein, bah, plusieurs voilà. dizaines de millions d'exemplaires ça vendus, aide. Ça aide.
Bon, y en a qui ont retenu plus les élites de Halo, les aliens avec leurs épées invisibles. Là. Mais personnellement, je préfère les grunts. Voilà.
Voilà.
Surtout leur voix dans toutes les langues d'ailleurs.
Que tu qualifiais effectivement non pas d'intelligence artificielle, mais de stupidité artificielle.
C'est ça.
Copyrighté, rarement. Autre style d'ennemi qui ont fait un joli carton, hein, c'est les Marines de Half-Life. Qui visiblement.
Enfin, les Marines, on en a trouvé dans pas mal de jeux
ouais,
en fait, finalement.
Ouais, grave.
Mais c'est ceux de Alpha qui m'ont le plus marqué. Moi.
Bah, c'est les premiers qui nous ont contournés. Et voilà, et là le jeu vidéo a changé pour
c'est
tout.
C'est ça. Ils ont lancé des grenades par-dessus des caisses.
Oui, ils savaient viser en lançant des grenades, c'était nouveau ça aussi.
Esquiver les attaques. Ouais.
Et repérer cacher. Où on était alors qu'on était planqué et qu'ils nous avaient pas vu. Alors en fait, ils sweepaient, ils vérifiaient tous les coins pour nous débusquer. Et là, je crois qu'on c'était juste un canard de script. Hein. On avait juste jamais vu ça et on a flippé notre race. C'était
ouais,
génial.
Ça changeait de Doom ou de Quake à l'époque où les ennemis, c'était plutôt des vagues hurlante qui déferlait sur le joueur.
C'est clair.
Et puis ça s'est vu après dans d'autres jeux aussi, genre des Metal Gear où t'as des troopers qui commencent à examiner des salles et à essayer de te débusquer.
Et puis surtout,
à ouvrir le casier.
C'est la scène d'arrivée des Marines, si je dis pas de conneries, ils débarquent par le toit sur des filins et c'est une des premières fois où t'as pas des héros qui arrivent horizontalement, des ennemis qui arrivent en face de toi, là, ils t'arrivent vraiment sur la gueule.
Au-dessus.
Et c'est très très nouveau ça.
Ce qui est génial justement, c'est que j'ai joué à Half-Life, vous vous rendez compte
C'est génial, t'as raison.
C'est que tu crois que c'est les mecs qui viennent t'aider qui arrivent quoi.
Oui.
Et ça c'est trop fort quoi.
Jusqu'à ce qu'ils sortent des rafales, voilà.
Et t'entends merde. Je suis entre deux feux.
Et t'entends encerclez-le et tout à la genre mais les gars
hey, hello, je suis un humain.
Mais on verra justement dans ce podcast, il y a quelques méchants qui cachent un peu leur jeu au début et certains alliés qui en fait révèlent être des terribles adversaires et comme
pour
les Marines
rien dire de plus mal poli
exactement. Alors messieurs, je posais la question tout à l'heure, qui va vouloir commencer une ébauche de réponse? Qu'est-ce qui fait un bon méchant de jeu vidéo? Comment est-ce qu'on pourrait le qualifier? Qu'est-ce qui est. C'est quoi? C'est une histoire de design, de narration, de personnalité?
Je
pense déjà qu'il y a plusieurs types de méchants. Quoi.
Il y a des goûts différents, il y a des gens qui sont plus marqués par certains.
Non, mais il y a plus le mec, le manipulateur, machiavélique, etc. T'as le mec qui est bête et méchant. Donc il y a déjà plein de catégories en fait. Alors il n'y a pas un méchant parfait, je pense. Il y a peut-être des méchants, alors on va dire des méchants vraiment cultes qui regroupent un peu toutes les qualités du méchant.
Comme
je sais pas, par exemple Revolver Ocelot ou Albert Wesker, par exemple.
On en parlera.
Machiavélique, violent, très fort et en plus très classe.
C'est vrai.
Voilà.
Très poseur, je trouve. Moi, c'est un peu la caractéristique aussi de beaucoup de méchants de jeux vidéo, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui est un peu simple, quoi.
Ouais.
Ils sont toujours très. Ils sont obligés d'être un peu classieux, CAF.
Ouais, mais ça, c'est du bad guy avec un background, tu vois. Parce que, je sais pas, moi, tu me demandes un bad guy, le premier qui m'a fait chier, je vais te faire sortir l'espèce de gros alien qui fait la taille de l'écran, le premier boss de R-Type, tu vois. C'est un méchant aussi, quelque part. Et d'ailleurs, dans les premiers méchants, il y avait quand même ceux de Space Invader qui étaient quand même vraiment relous aussi. Mais donc, ils n'ont pas forcément une histoire, mais ça peut être aussi parce que juste à galérer à les battre et qu'ils sont juste très fort dans le jeu en termes de gameplay, mais ils ont peut-être même pas de nom en fait.
C'est pour ça que tu retiens les méchants toi?
Ouais, ceux qui m'ont vraiment crispé, je me revois la gueule qu'ils ont, ils ont toujours pas de nom, mais putain je les déteste.
Angel, pourquoi tu les détestes toi?
Et non, mais moi j'avais parlé, il y a aussi la catégorie des, il y a les méchants losers. Tu vois, tous les méchants losers, ceux qui sont vraiment méchants, mais qui perdent toujours à la fin, tu vois, genre, tu vois, on va pas spoiler, parce que c'est justement des noms qu'on va citer plus tard, mais tu vois, par exemple, dans le dessin animé, ce serait le coyote, quoi, tu vois. Qui est super méchant, mais qui perd toujours à la fin. mais il est quand même méchant, tu vois. Enfin, il y a quand même cette
enfin, il veut être méchant.
Il fait super pitié quand même.
ou Gros Minet, tu vois, qui veut bouffer Titi, mais au final, il finit toujours avec un balai sur la tête. Quoi.
Ouais, on pense un peu au méchant Nintendo, hein, dans ce genre de choses, sans trop déflorer l'histoire, ou les méchants Sega. Hein.
Enfin, un Wario qui finit en héros, par exemple.
Voilà, par exemple. Allez, est-ce qu'on peut commencer notre grand listing de tous ces méchants? Vous allez voir, hein, y en a certains qui ont une histoire assez incroyable. Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Raon, puisque tu me regardes avec un petit regard?
Non, ça n'a rien à voir avec le podcast.
Très bien, je ne veux pas le savoir. Depuis que j'ai vu le photomontage Basic Instinct, j'ai peur maintenant. Voilà. Allez, donc, on vous explique un petit peu, on va faire une chronologie inversée. Du coup, en fait, on a pris les dernières apparitions des plus grands méchants de l'histoire du jeu vidéo. Et du coup, on va vous parler de leur premier pas, mais aussi de leur dernier. Et donc, on va commencer cette année, en 2009, avec le retour de l'un des héros méchants, sataniques, démoniaques, mais aussi très classe, Julo, les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo. Il s'agit de Albert Wesker, le grand méchant des Resident Evil. Ses premiers pas, bien sûr, Resident Evil 1 sur PlayStation et Saturn à l'époque, c'était en 1996. Néanmoins, cette année, dans Resident Evil 5, il arrive et puis de bien belle manière, j'ai envie de dire.
Il est devenu culte, ça fait partie justement de ces méchants dont on parlait, qui sont des gentils au départ. Enfin, qui sont censés être des gentils. Voilà. Mais c'est ça qui est génial. Mmh. Tu crois que c'est un gentil, tu crois qu'il a rien de plus qu'un autre gentil, puis rien de plus qu'un autre méchant quand tu te rends compte que machin. Et en fait, finalement, Albert Wesker, il a tout le complot derrière lui. Quoi. Enfin, c'est le mec finalement qui tire toutes les ficelles, ou tout du moins qui est au courant de tout, et qui profite de la situation entre les vrais méchants qui vont être Umbrella Corp et les vrais gentils. Voilà.
Même si pour Albert Wesker, vite dans la saga des Resident Evil, on découvre vite qu'il est encore plus méchant qu'Umbrella, puisqu'il se sert même lui-même d'Umbrella pour être encore au-dessus.
C'est ce que je voulais dire.
Ouais. Et dans Resident Evil 1, effectivement, sa fourberie dès la moitié du jeu, quand commence à arriver au grand jour.
On se rappelle qu'il a fait son retour, je crois, dans, parce qu'il est mort en fait. Alors, il est d'abord mort.
C'est compliqué parce qu'en fait, il y avait plusieurs fins. Et donc, il y avait une fin qui permettait effectivement de le voir mort, découpé par le tyran dans le premier Resident Evil. D'autres fins sur lesquelles il n'était pas mort. Et en fait, globalement, Capcom n'avait pas vraiment prévu la suite.
Mais cela dit, quand on le voit revenir, c'est dans Code Veronica, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est là que justement, il a commencé à avoir le culte de Albert Wesker, parce que tout le monde était content de le retrouver, parce qu'il était classe, vraiment très méchant, etc. Il était officiellement mort et on savait qu'il était plus ou moins, je sais pas, zombifié, robotifié.
Ah bah surtout, il avait les yeux injectés de sang, il avait des pouvoirs particuliers, il était très matrixiesque.
Très matrix, ouais.
Et effectivement, il était plus fort, il était revenu, puis il avait ses yeux de serpent. Et on comprenait après, plus tard dans le scénario, qu'il s'était effectivement injecté aussi des virus, les virus G, V et T, qui le rendaient particulièrement puissant.
Et d'ailleurs, dans toute la mythologie Resident Evil, il y a eu ce truc super important qui est le Wesker Report, je crois qu'il était vendu en bonus avec juste quel jeu. Et là,
on va y aller, nous les gars.
Non, mais bon, il a la classe et son apparition, qui est un des rares trucs que j'ai vu de Resident Evil 5, parce que j'y ai pas vraiment joué, elle est assez classieuse aussi.
Ah, bah dans Resident Evil 5, effectivement, tout le scénario tourne autour d'un petit peu de la jeunesse de Wesker. Et d'ailleurs, bouchez-vous les oreilles deux secondes si vous n'avez pas fini Resident Evil 5 ou si vous ne voulez pas savoir. Mais quand même, Resident Evil 5, normalement, clôt l'arc narratif autour de Albert Wesker, puisqu'il meurt à la fin du jeu. Et là, normalement, de manière complètement définitive, mais connaissant Capcom, qui sait qui ne reviendra pas en X morceaux, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai
quand même super tiède dans les films, je tiens à le dire.
Enfin, il apparaît dans un film, dans Apocalypse, Resident Evil Apocalypse.
Extinction aussi, je crois, non?
Oui, c'est Extinction le dernier.
Sinon, la scène dans Resident Evil 5 que je le trouve classe, moi je trouve que c'est juste ultra too much, non?
C'est laquelle? Parce qu'il y en a beaucoup.
Celle où il se frite de manière surréaliste.
C'est Matrix, mec.
Non, mais franchement, moi je suis assez d'accord avec Julo. Dans Resident Evil 5, c'est l'épisode dans lequel il a vraiment le plus de classe.
Moi, je pense que vous confondez la classe et la coquetterie. Hein.
Écoute, en tout cas, les arguments d'Albert Wesker pour être un ennemi classe, on va dire, c'est toujours l'éternel veste en cuir noir, les lunettes noires,
c'est
la voix très posée, très sombre.
Avec un cache poussière, il manque plus le chapeau.
Voilà, et donc un personnage effectivement diabolique qui n'exprime jamais aucun remords, et c'est en ça aussi qu'il fait flipper. Hein. C'est qu'on verra plus tard, il y a des méchants qui sont pas si méchants que ça. Albert Wesker fait vraiment partie. C'est le roi des traîtres. Hein. Il trompe tout le monde. Voilà, on va. Je ne sais pas. On va passer à un nouveau méchant forcément culte. Alors lui, il est né en 1986 et à l'époque, il s'appelait Akumajo Dracula. Et il est revenu cette année, en 2009, dans un jeu absolument apocalyptique, Castlevania Judgment. Il s'agit forcément de Dracula, de la série...
Apocalyptique dans tous les sens du terme.
Ah oui, clairement. Ouais. Il s'agit donc de Dracula dans la série des Castlevania. Hein.
Ah bah bon, Dracula déjà, en dehors de la série des Castlevania, c'est quand même un peu un grand bad guy.
C'est un peu la classe, ouais.
C'est un vampire, donc il a forcément la classe, hein, ça c'est évident. Et effectivement, dans la plupart des Castlevania où tu joues Belmont ou d'autres héros, tu finis par te rendre compte que c'est lui qui tire toutes les ficelles et tu te retrouves dans le château de Dracula que tu vas explorer avec tous ces minions qui sont tous à ses ordres, les zombies, les squelettes, les strums, il y en a une tonne, voilà. Et l'épisode Symphony of the Night, qui est pour beaucoup l'un des meilleurs, on joue le demi-fils de Dracula.
Et là, demi-fils.
Ça existe, demi-fils. Enfin,
Le demi-fils.
Oui, c'est-à-dire qu'il est à moitié humain et à moitié vampire. Ouais.
Ouais. Tout le monde avait traduit, mais j'aime bien l'expression.
Ça fera
c'est plaisir. Un peu con, ouais. Tu as raison.
Il est hybride, humain et draculien, un petit peu.
C'est un petit bâtard.
Mais effectivement, Dracula, et puis il a toujours été rendu très classe dans les Castlevania.
Il y a aussi beaucoup.
Très gothique.
Ouais, bah, comme la plupart des personnages, dans tous les cas, quand tu les vois dans les dessins préparatoires de.
De Madame Kojima.
C'est ça, Madame Kojima, qui fait tous les dessins
de personnages. Qui n'est pas la femme de Hideo.
Non. Qui fait tous les dessins préparatoires de Castlevania, qui sont magnifiques. Il a toujours cette classe, comme tous les autres personnages. Enfin bon, c'est un méchant marquant de base, même en dehors du jeu vidéo, quoi.
Mais toujours ambiance très renaissance, au niveau de la para.
Il y en a des plus moyenâgeux dans la série. Mais c'est vrai que s'il a des chemises qui bouffent, c'est mieux.
C'est ça.
Ah bah, à jabot, cheveux. Chemise à jabot, grand
ça tâche mieux avec le sang, ça fait plus d'écho, tu vois.
C'est un peu plus classe. Allez, on va continuer avec un nouveau méchant absolument culte qui lui aussi a fait une apparition au cinéma. Sa première apparition au jeu vidéo, elle date de 2001, mais il est revenu cette année faire une petite apparition, mais marquante néanmoins. Il s'agit de Pyramid Head, l'un des méchants cultes de Silent Hill 2. Vous savez, cette espèce de méchant.
C'est aussi un méchant modérateur chez nous.
Voilà. espèce de grand homme avec cette tête pyramidale comme ça et qui trimballe une espèce de grande lame énorme qui a un espèce de monstre bourreau complètement satanique
avec un tablier aussi
avec une sorte de tablier ouais, sur le sang, lequel le sang se répand et puis avec une sexualité complètement exacerbée hein. La première scène la première rencontre qu'on a avec lui dans Silent Hill 2, il est quand même en train globalement de tuer et en même temps se taper deux femmes zombies etc, enfin c'est très malsain.
C'est bon,
Angel qui apprécie visiblement la description donc oui, c'est vraiment un personnage très malsain sur lequel finalement on sait peu de choses, enfin il y a un culte autour de lui, il apparaît à plusieurs fois dans le dernier Silent
Hill. Il n'y en a qu'un seul hein. On est bien d'accord.
Bah parfois il y a des dans le dernier, pour rien déflorer etc, il apparaît plusieurs fois mais ça reste
jamais deux à l'écran.
Ah, si, si. Ah,
si,
si, si. Mais justement, mais c'est lors d'un culte satanique, donc on ne sait pas vraiment qui il est, comment c'est etc, et puis il y a cette à mes yeux hein, dans le film de Christopher Gans, la scène, on va dire visuellement la plus classe, c'est lorsqu'il y a justement toute l'ombre, toute la brume qui est en train d'arriver sur Silent Hill et que tout le monde se réfugie dans la cathédrale, sauf une femme qui n'a pas le temps de rentrer et qui se retourne, Pyramid Head est juste devant elle, et il lui arrache littéralement la peau comme un vêtement, et du coup, on voit tout le corps, enfin, il y a la peau qui part et c'est assez bien rendu avec tout le sang qui gicle comme ça sur la caméra.
En termes d'ambiance, ils sont bien émerdés dans le film. Le film, globalement, n'est pas terrible, mais...
C'est très partagé, mais effectivement, il y a quelques scènes visuellement qui sont quand même assez classes. En tout cas, Pyramid Head est vraiment un héros malfaisant, malsain, vraiment à l'image un petit peu de la série.
Il parle pas, il a pas
non.
de...
Il grogne.
Ouais.
On ne sait pas grand-chose sur lui, et puis quand même, il est mi-humain, là, comment tu disais,
ton demi-fils,
voilà. Lui, il est demi-humain, corps humain, mais tête bizarre, enfin bon, et puis il y a déjà eu des plans dans les Silent Hill où on voyait l'espèce de coffrage qu'il porte sur sa tête en forme de pyramide, qui est ouvert et qui, en fait, bien sûr, à l'intérieur, il y a des grandes piques. Donc on s'imagine que sa tête est perforée comme ça à chaque fois. Enfin bon, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé, c'est suffisamment horrible comme ça. Mais enfin bon, ça décrit un petit peu l'ambiance sympathique et bucolique des Silent Hill. Voilà, voilà. Allez, on reste toujours en 2009 avec le retour d'un héros méchant, emblématique du jeu vidéo. Ses premiers pas, c'était en 1991 avec Street Fighter 2. Et donc le retour, là, avec Street Fighter 4, celui qu'on appelle Bison ou Vega, Julo.
Tout à fait, ça dépend des pays. Je sais pas pourquoi, à l'époque, on faisait beaucoup ça dans les jeux vidéo. On changeait les titres, on changeait. Voilà. Dans Street Fighter, ils avaient inversé le nom de tous les boss.
Ouais, c'est un bordel.
Ouais, un vrai bordel. Et alors, on parlait de nazi tout à l'heure. C'est un nazi déguisé, quand même, un peu, quelque part.
Un petit peu, oui. Dans l'aspiration, c'est avec son képi et son espèce d'uniforme avec les.
Un peu comme les méchants de Bionic Commando à l'époque, qui avaient vraiment. Il ressemblait vachement à Bison.
Nazi ou grand communiste
Ah, peut-être.
Ambiance armée rouge, quand
même. Ouais, comment il est rouge, oui. On peut se poser la question, mais c'est les pantalons bouffants, les bottes militaires.
Mais justement, Julien, on se posait la question pourquoi Vega Bison ? Et bien visiblement, Angel a la réponse, alors attention.
Mes amis,
l'instant Wikipédia d'Angel.
Attention, l'instant Angelo. Donc, alors la rumeur voudrait en fait que donc, Bison, qui était le boxeur, en fait, les Japonais voulaient faire le rapprochement avec Tyson. Tu vois, Tyson, Bison, etc. Mais après, donc, pour une histoire de droit, ils se sont dit ça va être too much, on va avoir des problèmes. Donc, ils ont essayé de basculer, de changer avec Vega, qui lui-même est devenu machin. Donc,
bah, il est devenu Bison.
Donc tout ce bordel vient justement du il voulait récupérer
une histoire avec Tyson en fait.
Il voulait récupérer en fait toute l'imagerie de Tyson qui faisait un carton à ce moment-là vu qu'il était champion du monde je crois. Et
il croquait pas les oreilles encore.
Exactement. D'où enfin tu vois c'est pour ça que le fond c'est Vega, c'est compagnie, tu vois le combat.
OK.
Bref, c'est tout simple, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air.
Et voilà.
C'était l'instant d'Avila, effectivement, l'essentiel. En tout cas, il a fait un bien beau retour, ma foi, en 2009.
Et d'ailleurs, d'où le M. Bison, comme Mike Tyson.
C'est vrai. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est Monsieur Bison, mais en fait, non. Peut-être que ce serait Mike Bison.
Bison.
On ne sait pas et on ne saura probablement jamais, à moins que nos amis de Pix & Love, un jour, fassent une grande saga sur les Street Fighter.
Il y a de quoi faire.
C'est bien possible.
Nous faire rêver avec des anecdotes certifiées conformes. Voilà, en tout cas, bon, il est revenu dans Street Fighter 4, mais ça, ce n'est plus le grand méchant du jeu. Hein, il a été remplacé. Mais c'est vrai que... Il a marqué vraiment les esprits essentiellement en 91 avec Street Fighter 2. Hein, puisque...
Qu'est-ce qu'il était dur à battre,
ouais, il était pas facile. Hein. Il était pas facile.
Il reste toujours relou à jouer contre.
C'est le patron de toute l'organisation criminelle du Shandalu ou Shadowlu.
Ouais, on ne sait jamais. Ouais. Je regarde par an, je pourrais pas.
Vous saviez qu'il y avait un RPG papier qui a été fait sur Street Fighter quand même, un jeu de rôle papier traditionnel.
Non.
Avec des dés, si.
Putain.
Avec un scénar et tout. Donc Bison est un personnage très important du background de Street Fighter 2.
Dans le premier long métrage d'animation de Street Fighter, il était vraiment surpuissant. C'est là qu'ils ont commencé à le designer vachement plus
balèze,
musclé et tout, quoi. Avec la mâchoire énormissime, les yeux tout blancs et tout.
Il fait super mal.
Dans le film aussi, apparemment, il était pas mal. Je n'ai aucun souvenir de ce film que je n'ai jamais vu et que je ne souhaite jamais le voir.
Dans ces cas-là.
Je ne souhaite jamais le voir.
Ah, c'est le mec qui est mort d'ailleurs après le film d'un cancer.
Très bien. Voilà. Comme quoi, incarner des méchants, c'est une belle vie. Allez, on passe l'année suivante, 2008. Il nous reste encore beaucoup de méchants cultes hein, de l'histoire du jeu vidéo. Et on va s'arrêter quelque peu sur l'univers des World of Warcraft qui ont engendré moult et moult héros sataniques, méchants et ténébreux, je ne sais quoi.
Il y en a un paquet.
Et alors, on va faire un petit bloc parce qu'en fait, il y en a eu... En 2008, en fait, globalement, avec chaque nouvelle extension, hein, si je comprends bien. Donc, il y en a eu aussi en 2007 avec Burning Crusade et forcément en 2005
au lancement de
World of Warcraft. Caf, c'est à toi. Et alors, chapeau si t'arrives à ne pas écorcher un seul nom.
De tête, je vais avoir du mal, je te pique ta feuille deux secondes. Mais non, l'histoire, c'est que surtout, il y a plein de gens qui vont les buter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que World of Warcraft, il y a plein de gens qui jouent en se disant il y a un gros monstre avec une stratégie, il faut le buter, etc. Parce que outre les vrais, enfin que uniquement les vrais passionnés sont au courant, c'est que tous ces trucs-là ont une histoire hallucinante derrière, c'est qu'il y a un background de folie qui est écrit par un mec qui ne fait que ça, qui balance toutes ces infos parce qu'il y a des livres aussi qui vont avec. Donc l'univers est extrêmement riche et on parlait tout à l'heure des gros boss qui sont super chauds à battre, etc. C'est que les mecs ont joué à WoW, mais même qui ont arrêté, si je regarde Raron qui est maintenant désintoxiqué depuis bien longtemps, si
Ragnaros.
Voilà, Ragnaros, c'est obligé, tout le monde s'en rappelle, et Ragnaros, il a la classe en tant que méchant du jeu vidéo parce que.
Ragnaros, c'est le boss de World of Warcraft parce que avant que les extensions sortent, c'était le mob, c'est-à-dire le monstre le plus difficile à battre de tout le jeu.
Il ressemble
avec
à quoi
Nefarian.
C'est un grand élémentaire de feu.
Voilà, mais sauf que toi, ton perso, en gros, on va dire, je vais dire n'importe quoi parce que selon ta caméra, l'échelle veut rien dire si tu veux, mais en gros, il doit faire 100 mètres de haut et voilà, et toi, tu fais 1 mètre 30 si t'es un gnome et t'es 2 mètres et quelques
Balrog,
si t'es un elfe. C'est un Balrog de feu, mais statique
plus
en fait.
Enflammé,
Surtout, il apparaît d'une manière un peu spectaculaire. Ouais. Il flingue le mec qui l'invoque. Il y a tout un blabla avec une voix caverneuse extraordinaire. La première arrivée dans Molten Core, donc qui était l'instance de ce moment-là, et la première invocation.
Français,
ouais, je crois que c'est ça. La première invocation de ce boss et le premier fight, généralement, les mecs crèvent comme des merdes. Ils sont là, genre. Oh waouh, c'est trop beau et tout. Il n'y a personne qui est concentré.
Même en étant concentré au tout début du jeu avant de.
Elle nous a mis des fessées.
Ah oui, mais Ragnaros, c'est un des boss qui a duré le plus longtemps de tout le jeu en fait.
Nefarian a été bien relou donc. Parce qu'il y a eu aussi le dragon.
Il a été remplacé après parce que il devenait trop facile.
Exactement. Dans un MMO, tu as une progression, tu vois, d'équipement, etc. Donc au bout d'un moment, c'est mathématique. Les mecs sont équipés, donc ils arrivent à buter le boss. Donc il en faut un nouveau. Donc tu as une progression et une surenchère des méchants en permanence. C'est pour ça que pour un podcast comme le nôtre, le monde des MMO, c'est génial. Parce que des méchants, là, on pourrait en faire 50 000. Rien que sur WoW, j'avais fait le truc. Donc après, tu as Nefarian qui était un dragon. Il avait plein de copains avant parce qu'il n'y a pas un seul boss dans les instances. Hein. Ragnaros, c'était le boss de
c'est
fin
le dernier
pour cette
boss
instance.
De cette instance
mais
là,
il y en avait plein d'autres
avant.
Que je vous épargne parce que voilà on s'en fout mais il y a rien que sur Blackwing Lair oui c'est ça PWL ouais Blackwing Lair j'ai un doute
le mec il joue tellement à WoW qu'il raccroche tellement tôt qu'il ne connaît plus que les acronymes
je ne connais plus les noms
ça veut dire quoi WoW
c'est quoi on ne sait plus et ben justement Nefarian c'est donc un dragon et tout ce truc là c'était il y avait énormément pratiquement que des dragons d'ailleurs à buter et c'était ils étaient tous super classe quoi en termes de gameplay en plus évidemment chacun nécessite une stratégie différente et tout et Nefarian Marianne a bien fait pleurer plein de gens aussi. Et puis après, évidemment, tout cela, ils étaient battus. Donc il a fallu passer à ça. C'était ce qu'on appelle Vanilla.
Tu nous rêver avec plein de noms là,
toi, tu
de
kiffes,
l'espace.
Hein. Toi, tes préférés, ça va être ceux de Burning Crusade. Burning Crusade. Ouais. Naxxramas. Oui, ah oui, j'ai pas parlé de Eshtun.
Ktun. Je connaissais Cthulhu, mais alors Ktun.
Et en fait, il est très inspiré du personnage de Cthulhu.
Il a des tentacules. C'est, voilà. Et ça, c'était un boss que pratiquement personne n'a battu dans WoW à l'époque. Parce que, en fait.
Ktun.
Tu sors.
Non, parce que c'était un boss. Gros laser, il avait un œil qui balançait un gros laser qui était super chiant à éviter.
Qui était hyper balèze et qui était surtout un.
Il est tellement accurate pour un jeu qui passe au Moyen-Âge.
Ah oui,
je te balance le laser.
Attends, dans WoW, t'as des mecs qui ont des hélicoptères.
Bien sûr, les gnomes, ils ont la mécanique, etc.
WoW, c'est un mini. C'est entre
l'heroic
fantasy. Non, c'est le steampunk en fait. C'est,
ouais, c'est des moteurs à vapeur.
Ah oui, voilà. Il y a des motos et tout, quoi. T'as des mecs en tapis volant qui font la course
avec des motos avec des pneus en pierre.
Non, avec des pneus.
Ah ouais.
Sur Shimmering Flats, ils font même des courses de cartes.
Exactement. C'est les gobelins. Les gobelins sont des ingénieurs, en fait.
Revenons à Ktun.
Donc, Ktun, c'était un des derniers héros de Vanilla WoW. Donc, avant qu'il y ait la première extension, il était trop dur. Et voilà. Et donc, personne n'a réussi à le buter à part les plus grosses guildes. Et il y avait même un truc qui est sorti, donc, qui était Naxxramas. Mm. Et qui a été tellement pas vu par personne qu'il a été recyclé dans l'instance vachement plus facile pour la sortie de Wrath of the Lich King, le nom que tu adores prononcer.
Ah, Wrath of the Lich King, ça doit être le méchant.
Voilà, et c'était le méchant, c'est Kel'Thuzad, donc qui était le boss de Naxxramas.
Kel'Thuzad, ouais, qui est un personnage qui est apparu d'abord dans Warcraft 3.
Oui, d'ailleurs, il faut quand même dire que dans World of Warcraft, il y a recyclage de tout l'univers de Warcraft, puisque c'est la même chose. Hein.
Donc, quand même le Night Elf, comment il s'appelle déjà lui,
Illidan Stormrage.
Illidan.
Illidan Stormrage.
On a déjà parlé, rappelle-toi d'Illidan. Je ne sais plus dans quel podcast, mais on l'a déjà mentionné.
Ah oui, Illidan. Oui, tout à fait, je m'en souviens. Elle m'en rappelle
un
maintenant.
Un Night Elf qui a trop la classe avec deux énormes lames, des épées, des ailes dans le dos de chauve-souris et tout. En termes de design, il y avait du matos. C'est pareil, il a un vrai background hyper intéressant.
Et là, le roi Wrath of the Lich King, là, c'est celui qu'on voit sur la jaquette, là, truc avec les yeux bleus, et le casque, le haut.
C'est un ancien gentil, justement, on en parlait tout à l'heure. À la base, c'était un paladin.
Ah, ça, c'est intéressant.
Il s'appelait Arthas.
Mm-hmm. Qui est le fils du roi du coin là, à l'époque.
De Lord Aeron, avant qui était la capitale d'un royaume humain, qui s'est fait envahir par les morts-vivants. Et donc, Arthas est allé chercher une épée qui s'appelait Frostmourne dans le nord.
Fantastique du jeu vidéo.
C'est ça.
Bienvenue.
Nous, on s'est mangé Albert Wesker, les mecs, vous allez vous manger.
Ah, bah oui. Hein.
Ouais, mais Albert, c'est un nom normal, il s'appelle pas Wrathbrush of the Witch Bride.
Arthas, c'est facile à prononcer quand même. Ouais, bref, voilà. Et donc, il a fusionné avec un esprit, l'esprit du roi Lich, le Lich King.
Maléfique.
Il est devenu. Bon,
il a une vie sympa. Après, il a tué son père. Voilà. Il a flingué plein de gens. Il est devenu le roi. Ouais,
enfin, il s'est fait un petit audit. Voilà.
Est-ce que quand il a flagué son père, il a dit Father?
Non, il a juste mis l'épée. Donc
à ce moment-là, peut-être que
voilà.
Julien, ça va l'intéresser.
Ouais, c'est vrai. C'était trop la classe cette cinématique.
La question, c'est est-ce qu'il pleura?
D'ailleurs, je précise que dans Wrath of the Lich King, il n'y a pas le boss du Lich King, puisqu'il n'est pas implémenté encore. Mais tu vois, la surenchère, il le garde pour la fin.
C'est pas vrai. La Arthas, là,
non.
Avec ses épées maudites et tout, là, pour l'instant, on ne peut pas l'avoir.
Non,
seulement quand tu auras payé 42 mois d'abonnement. Voilà.
Là, pour l'instant, les gros méchants de Lich King, il faut préciser que ce ne sont que Kel'Thuzad. Il y en a un que personne connaît parce que personne n'a battu chez les gens normaux, c'est Yogg-Saron. Et maintenant, le Lich King, on attend dans une prochaine update, mais ça ne sera pas une extension. Normalement, il sera. Un jour, dans un gros patch.
Très bien.
Attends, je veux pas relancer le truc, mais il y a un monstre qui est encore
invaincu.
Bien sûr que oui et non.
Comment j'aurais jamais dû poser la question.
Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour les gens normaux, il y a donc le dernier boss de Ulduar qui est la nouvelle instance, Yogg-Saron. Il y en a plein qui l'ont jamais battu, même celui d'avant, ils l'ont pas battu. Par contre, t'as des guildes taïwanaises, le truc il est sorti 8 jours après, ils avaient tout fini quoi.
C'est-à-dire qu'en Occident, il a pas été battu, c'est ça?
Si, il y a des Américains et des Européens qui l'ont battu, mais il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 20 guildes qui ont complètement torché le truc.
Il est donc très 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 dur et donc très 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 méchant.
Il est super méchant.
Donc il a bien sa place dans ce podcast. Podcast 101 sur les méchants cultes du jeu
vidéo. Wesker, si tu veux, il faut y aller à 25.
Putain,
quoi.
Génial, classe. Bon, on va accélérer un petit peu parce que mine de rien, il nous reste encore des quarantaines de méchants. Alors, on va parler d'un nouveau méchant qui a fait ses premiers pas en 1998. C'était sur PS1. Il est forcément absolument culte. C'était dans Metal Gear Solid. Il s'appelle Psycho Mantis. Il est revenu en 2008 lors d'une petite apparition comme ça dans Metal Gear Solid 4. Et là, une fois de plus, il rappelait tant de souvenirs. On s'en rappelle tous forcément. Ouais, qui veut prendre la parole, qui veut rappeler un petit peu ses histoires, pourquoi il est aussi cultrant?
Pour moi, d'abord parce qu'il a un design vraiment très particulier, hyper maigre, avec son masque à gaz sur la gueule, sapé en latex.
Il est vite.
Voilà, il évite. Tu sens tout de suite que c'est un type un peu malsain.
Sa voix aussi, ouais. Extraordinaire.
T'as l'impression qu'il parle avec une trachéo, mais bon. Ouais. Et puis le fameux coup de la memory card qu'on a déjà raconté, puisque c'est un boss quand tu arrives qui est censé avoir des pouvoirs psychiques et lire un petit peu ce que tu fais. Et donc, il lit la memory card pour voir si tu as des sauvegardes de jeux Konami et il te les balance. Mmh. En disant, tu joues à ci, tu joues à ça, etc.
Il fait aussi vibrer la manette à l'époque.
Voilà. Et tu dois surtout changer de port de manette pour pouvoir le toucher.
C'est-à-dire, non seulement c'est un grand boss qui a été bien designé, mais c'est aussi un moment vraiment mémorable du jeu vidéo.
Du très très grand Kojima. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de méchants qu'on peut retenir, et surtout dans MGS1 d'ailleurs.
Bah justement, on va en parler, puisque dans MGS1, c'était aussi l'arrivée de Revolver Ocelot, qui a moult noms. Hein. Revolver Ocelot, c'est le Major Ocelot, c'est Shalashaska dans MGS2, c'est Adamska ou Adam dans MGS3, c'est Liquid Ocelot aussi dans MGS.
Parce qu'il se fait greffer la main de Liquid.
Et en fait, c'est le méchant récurrent de la série, finalement.
Tout à fait.
C'est le vrai méchant de la série. Voilà. Et il est un peu comme Albert Wesker, d'ailleurs, parce qu'il maîtrise un peu tout et tout le monde. Et il a plein de personnalités, il a une histoire super dense, parce que c'est ça aussi, il faut qu'il y ait un background qui déchire, quoi. Et lui, voilà, au fur et à mesure, tu te rends compte que.
Bossé avec les armées russes.
Ah oui, c'est un agent double, triple, multiple. Hein, et qui finalement a pactisé quand même.
C'est jamais qu'un connard de cow-boy avec une moustache. Hein.
Pas dans sa jeunesse, puisque dans sa jeunesse, il était quand même finalement assez proche de Big Boss.
Ouais,
le père.
D'ailleurs, c'est grandiose dans MGS3 de le voir jeune et pas encore expérimenté et super pas maquillé. Machiavélique encore, en tout cas pas au point.
Puisque l'un des signature moves, des caractéristiques particulières de Revolver Ocelot, c'est donc d'avoir des revolvers, des colts, avec qui bien sûr il joue habilement, sauf que dans MGS3 il connaît pas encore vraiment, il y arrive pas trop, il maîtrise des gestes qu'il maîtrise pas, et puis il y a le petit geste de la main là, très significatif de Ocelot qu'on retrouve dans les MGS2 et qui... qu'on découvre dans MGS3, c'est la première fois qu'il fait ça parce que Snake lui faisait, Big Boss lui faisait. Donc c'est autant dommage, la boucle est bien bouclée, et effectivement Revolver Ocelot, c'est un personnage culte de toute la mythologie des Metal Gear Solid, très clairement. On reparlera d'ailleurs d'ennemis cultes des MGS tout à l'heure, avec d'autres apparitions, mais cette fois qui se concentreront plus sur MGS, on parlera de Sniper Wolf, par exemple, cette femme sniper, qui était véritablement classe, mais aussi si méchante. On continue en 2008 avec le retour d'un héros, d'un méchant vraiment culte, qui avait fait lui ses premiers pas sur Super Nintendo en 1994 dans Final Fantasy VI. C'est probablement l'un des héros les plus diaboliques du jeu vidéo. Il s'agit de Kefka Palazzo, qu'on retrouvait en 2008 dans Dissidia Final Fantasy.
Dissidia.
Cette espèce de...
C'est un clown, en fait.
C'est un clown malfaisant qui, en fait, était le bras droit de l'empereur de Gestal dans FF6 et qui a, comme ça, généré tout un culte autour de lui dans le jeu et créé une grande tour, la tour des fanatiques, finalement faire une secte autour de son culte, de sa personnalité. Et à la fin du jeu, on l'affronte en archange démoniaque avec ses ailes.
Il a surtout fait une espèce de vrai génocide en empoisonnant une rivière.
Exactement.
En fait, comme ça.
Et est-ce que vous vous rappelez le signe distinctif de Kefka et qui à l'époque avait vraiment aussi forgé un peu sa légende ? C'était son rire. C'était l'une des premières fois où justement un personnage avait un rire digitalisé et c'était un rire vraiment sardonique qui avait comme ça une véritable signature sur ce personnage. Et il faut savoir aussi que c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire des Final Fantasy qu'il y avait un thème musical composé par Nobuo Uematsu qui était dédié à ce méchant. Preuve qu'il avait une importance très forte dans les Final Fantasy.
L'autre méchant en question, on en parlera tout à l'heure.
Bah, juste là, qui était un méchant tout aussi fou d'ailleurs. Donc après Kefka, effectivement, il y a Final Fantasy VII, et une fois de plus on en parle en 2008 parce qu'il est revenu dans Dissidia Final Fantasy. Final Fantasy VII, c'est 97, et c'est l'arrivée peut-être... aux yeux en tout cas de beaucoup d'entre nous.
À mon avis, si tu fais un vote avec la communauté, etc.,
ce sera le plus grand méchant.
Dans top 3,
il s'agit de Sephiroth.
C'est obligé.
Ce personnage avec ses cheveux longs argentés, sa gigantesque épée, Masamune, et qui est une sorte de pantin en fait, de Genova, une histoire très complexe et qui restera dans l'histoire aussi parce que c'est lui qui tue Aerys.
Ouais. Le salaud. Il nous a fait chialer.
Clairement, ouais. Et puis il avait un rôle vraiment essentiel dans toute l'histoire parce que c'était un méchant mais qui n'en était pas fondamentalement un en fait et qui était manipulé.
Disons qu'il avait son propre agenda, quoi. C'est-à-dire qu'il essayait quelque chose et puis nous on courait après en fait. En tous les cas.
C'était une victime aussi à la base, un peu comme comme les autres. Comment on appelle ça ? Les sujets de test, quoi.
C'est complètement le pantin de Genova.
Sauf qu'il écrabouillait tout sur son passage pour avoir ses réponses, quoi.
Et qu'il avait la méga classe.
Et qu'il avait la méga classe tout en noir. Ouais.
Et forcément, l'une des images aussi qu'on retient quand on parle de Sephiroth, c'est.
Il se retourne dans les flammes.
Voilà, dans les flammes, dans le village de Nubelheim, où ça, effectivement, ce regard glaçant qui nous porte, qui porte aux joueurs,
est oui, vraiment resté. Tout le monde dans ce village d'ailleurs.
Oui, oui, ouais, c'est un véritable massacre. Bon, en fait, il a déjà massacré tout le monde dans la ville principale au tout début, qui s'appelle Midgar, où la première fois où justement on le voit, on suit des grandes traînées de sang et on retrouve juste son épée. Donc on l'a pas vu encore et la c'est classe. Lui qui a absolument défoncé toute une tour entière où d'ailleurs on est surpris de pas être attaqué en fait au début.
Et puis le final qui est comme celui de Kefka éblouissant en archange avec la musique.
Mais en archange déchu parce qu'il n'a qu'une aile. C'est d'ailleurs le titre de la chanson, de la musique, hein, Wind Winged Angel. C'est winged, l'ange à une seule aile.
One Winged Angel.
Voilà, très bien.
En anglais.
avec justement, pour l'une des premières fois dans l'histoire du jeu vidéo, une musique avec du chant.
Avec des chœurs en fait.
Avec des chœurs, ouais.
Il y a une version réorchestrée.
Elle est fantastique. Elle est juste fantastique.
Ils ont fini là-dessus. Sur FF8, ils ont commencé avec une musique chantée, orchestrée.
Exactement.
Merveilleuse aussi.
Le thème Phytos Toussec Vinosec.
Tout à fait.
De FF8. Mais c'est vrai que dans FF8, par exemple, les méchants, la sorcière, etc.
Beaucoup
moins charismatiques. Et c'est vrai que dans la saga des Final Fantasy, le Kefka et Sephiroth restent les deux plus emblématiques.
Et puis ils sont très 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 loin devant tous les autres, c'est clair.
Et ils sont tous les deux marqués quand même par une certaine forme de folie qui les habite totalement et un look improbable aussi. Mais assez classe.
Surtout Kefka.
Surtout Kefka. Oui, enfin, habille-toi comme Sephiroth dans la rue, tu vas voir.
Il en connaît pas.
Regarde Greg, hein, il s'habille comme lui.
Écoute, on posera la question à toi la prochaine fois qu'on le verra, Traz. Voilà. Allez, on enchaîne toujours en 2008 avec le retour d'un personnage emblématique. Lui, c'est le méchant des Sonics de Hedgehog, qui était né en 1991 et qui a fait son retour là avec une version next-gen assez décevante, il faut le dire. Il s'agit du Dr Robotnik, alias Eggman, Angel. Fais-nous un petit peu l'historique de ce personnage.
L'historique du personnage, enfin, il n'est pas forcément évident parce que comme tout l'univers de Sonic, ces gars ils ont fait à peu près n'importe quoi, donc il va et vient. Mais alors à l'origine, ce serait un scientifique plutôt sympa qui a...
scientifique plutôt sympa.
Ouais, un scientifique plutôt sympa qui œuvre pour tu vois pour le bien de la planète et qui suite à une expérience, je sais plus ce qui lui arrive. En gros, une expérience qui tourne mal, forcément, Sonic devient ultra supersonique, il devient bleu, il court très très vite, mais entre-temps, lui, il devient super vilain, et son but dans la vie, c'est de récupérer donc les 7 émeraudes du chaos pour s'approprier la planète et faire le mal partout. Alors lui, voilà, lui, il fait partie de la catégorie des vilains de dessin animé.
Des vilains un peu losers, hein, comme on en parlait tout à l'heure, parce qu'il n'y arrive jamais, puis il est très cartoon. Quoi.
Exactement, il est super cartoon, et puis c'est... C'est l'éternel loser, ouais, en fin de compte, tu vois, il a toujours un plan, il a toujours un super plan, mais qui de toute façon sera contré. Voilà.
Puis surtout, il fait pas peur.
Oui, c'est ça.
Ouais, et puis il fait pas peur. Voilà, il a ses moustaches, il a Eggman. Enfin, si on l'appelle Eggman au Japon, c'est un hasard, c'est parce que voilà, il est encore en forme d'œuf, quoi. Et puis quand il marche, il pato.
Voilà. Il fait pas rêver, ouais. Et puis il est toujours dans une petite capsule volante.
Ouais, dans les premiers, quand c'était entièrement 2D, c'était les fights, les boss, c'était toujours lui. C'est ça qui est marrant, hein. C'est que à la fin de chaque.
Il s'en prenait plein la gueule à chaque fois.
Ouais, c'était toujours lui, mais il était dans une capsule différente qui un coup lançait des bombes, un coup il y avait une scie, un coup machin, mais c'était toujours lui le boss. C'est marrant.
Au fil du tout Robotnik. Il construisait comme ça.
Oui, Robotnik d'ailleurs.
Un petit robot à la con.
Après, par rapport au dessin animé ou au BD, je crois que c'est les BD Robotnik justement avant d'être Robotnik, quand il était gentil justement, c'était l'inverse. Et donc c'était Kintobor. Donc c'était, il s'appelait le docteur Kintobor qui était gentil et qui en devenant super vilain, c'est transformé en robot.
Chez Sega quand même. Ah, mais au niveau des noms, c'est pas mal.
On va dire quand tu vois, on va retourner le nom.
Ah non, mais chez Sega, quand ils ont un univers, ils le soignent, ils font pas n'importe quoi avec. Hein, en rajoutant des personnages à l'appel, tu vois, des backgrounds sans qu'une tête, etc. etc.
Kintobor, donc, hein, c'est ça.
Qui est Robotnik à l'envers.
Kintobor, exactement, qui serait Robotnik à l'envers.
Fantastique. Waouh.
Mais je crois que c'est dans une BD, c'est même pas un truc officiel, je crois que c'est dans une BD ou un dessin animé. C'est vraiment.
Qui peut être officiel, mais qui est pas dans l'histoire.
Ouais, c'est histoire d'exploiter le truc encore plus, quoi.
Extraordinaire. Fantastique. Allez, on continue avec un méchant beaucoup plus humain, hein, terriblement humain, même un mégalomane milliardaire, le concepteur, le bâtisseur d'une cité engloutie, la cité de Rapture. C'était en 2007, c'était il y a 2 ans. Andrew Ryan naissait dans l'imaginaire des joueurs. Et c'est vrai que lui, aucun super pouvoir, fondamentalement pas de classe incroyable de manière vestimentaire, hein, mais par contre une présence, une voix et une fin
c'est
aussi.
C'est ça, c'est qu'au départ, premier contact dans une espèce de pièce où une grille se ferme et t'as un projecteur et sa voix qui passe par-dessus sur cette utopie qui était Rapture à la base, où tu te dis vraiment ce mec c'est un type particulier quand même, oui. Qui a pensé et tout fait pour construire une cité sous la flotte et en faire la ville des scientifiques.
Une cité utopiste.
Voilà, et puis ça a évidemment mal tourné hein, pour tous ceux qui ont joué.
Ah bah, alors là justement, que ceux qui n'ont pas fini BioShock se bouchent les oreilles, il serait temps d'un autre côté, mais la fin d'Andrew Ryan, qui n'est pas d'ailleurs la fin du jeu, hein, c'est pour ça que c'est un demi-spoiler, mais franchement, bouchez-vous les oreilles si vous ne le savez pas. Elle est absolument culte aussi, parce que c'est quand même un ennemi qu'on tue à coups de club de golf, et surtout on fait le geste et on le défonce, et c'est surtout lui qui demande à être abattu dans le jeu, et ça c'est quand même rare, c'est que justement il va jusqu'au bout de sa logique de mégalomanie, etc., pour contrôler lui-même sa propre mort. Ouais. Et ça c'est quand même assez rare, même à mes yeux assez unique dans l'histoire du jeu vidéo. Et justement ce qui est intéressant, c'est que ce grand méchant qu'on pense poursuivre pendant plus d'une dizaine d'heures n'est finalement pas le grand méchant de BioShock, mais ça par contre on vous laissera complètement la surprise pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Voilà, vous pouvez vous reconnecter
ce
avec
les gens,
nous.
Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a perdu quand même pendant cette petite Solaïus, Raon et Julo qui n'ont pas fini BioShock.
Et ça faisait du bien.
Non, mais vraiment quel grand jeu que BioShock, et c'est vrai que Andrew Ryan il contribue très fortement.
Un homme politique moderne comme on les aime.
Ouais. Non mais ça fait plaisir de voir, parce que beaucoup de personnages qu'on a cités jusqu'à présent, j'aurais presque envie de dire même tous, ont tous des pouvoirs, sont tous complètement hallucinants. Enfin, on ne pourrait pas les croiser dans la vraie vie. Bon, alors, c'est sûr que bâtir une cité comme ça sous l'eau, c'est compliqué.
Il y a des
mecs
qui se seraient rendus compte de quelque chose avant de signer l'échec. Quand
même. Mais finalement, c'est très, ça pourrait être réaliste, en tout cas dans la vision que Andrew Ryan développe dans le jeu. On va passer du coq à l'âne avec un autre personnage qui est finalement un peu l'alter ego du Dr. Robotnik Eggman chez Sega, avec Bowser, hein, aussi appelé le roi Bowser Koopa à l'origine. Le jeu. Première apparition, c'était en 1985 dans Super Mario Bros, mais il est revenu là en 2007 dans Super Mario Galaxy, plus méchant que jamais, mais à la fois aussi plus loser que jamais, Angel. C'est pareil, hein, c'est un méchant qui fait pas beaucoup peur.
Lui, c'est Gargamel, lui. Ouais. Tu vois, il veut, non, mais c'est vrai, il veut toujours choper la schtroumpfette, et puis il n'y arrive jamais.
Il est presque d'ailleurs assez attachant, parce que justement, c'est ça, tu le dis juste. En fait, il est amoureux de Peach, et c'est pour ça qu'il la kidnappe à chaque fois. Il y a même d'ailleurs une phrase dans Paper Mario où il dit quand même, texto, j'espère qu'elle m'aime un peu. C'est dire l'affection qu'il essaie de créer.
Super Paper Mario, c'est très particulier parce que tu peux le jouer aussi.
Justement, c'est ça le truc. C'est la première fois que tu peux jouer Bowser et qu'il devient un gentil, en fait. Parce que la princesse a été kidnappée par quelqu'un d'autre, et ça, dans son pays, c'est trop.
Enfin, c'est la première fois hors les Mario Kart, enfin tous les jeux un peu multijoueurs.
Oui,
mais c'est vrai que là il y a un peu plus de background. C'est un personnage.
Surtout qu'il est complètement décalé dans Paper Mario et qu'il y a beaucoup d'autodérision, notamment autour de lui. Il
faut absolument y jouer hein, si vous l'avez pas fait.
Paper Mario, vraiment, c'est génial.
Mais est-ce que vous ne devriez pas que c'est une sorte de clin d'œil? Rappelez-vous Super Mario World à la fin, donc on l'affrontait et lui est aussi à l'image de Robotnik. Alors qu'à l'époque, en plus, Sega et Nintendo se tiraient vraiment la bourre avec Sonic et Mario, était dans une petite nacelle à son effigie avec sa tête et balançait des espèces de carapaces, etc. Est-ce que c'est pas une sorte de clin d'œil un peu à Robotnik?
D'accord. C'est une excellente question. Nous sommes
alors là,
les poser.
Écoutez, hein,
alors vous avez deux heures et c'est une copie double.
Dans les forums. Non, mais je trouve ça assez amusant de voir qu'il était vraiment calqué sur le modèle de Robotnik dans cet épisode-là. Lorsqu'on sait que c'était vraiment l'apogée de la guerre entre Sonic et Mario. J'y vois personnellement comme une sorte de grand clin d'œil.
Je me souviens surtout de la fin de Mario 64, moi, où tu le chopais pas. Enfin, à chaque fois que tu le combattais, tu faisais le même truc à le choper par la queue pour le balancer sur des bombes.
Exact.
Ouais, c'était très rigolo.
Et j'avais toujours halluciné sur le fait que Mario puisse attraper un truc aussi gros. Mais bon.
Mais qu'est-ce qu'il est costaud, Mario.
Eh oui.
C'est un plombier. Hein.
Mais surtout, ce qui est amusant, c'est que c'est aussi le seul épisode où finalement il est un peu réaliste, on va dire, en termes de proportions, parce que dans les autres, c'est censé toujours être une sorte de dinosaure, hein, Bowser. Sauf qu'il fait la taille ou deux fois la taille de Mario et qu'à toute manière, il est éternellement dans un autre château. Toujours. C'est-à-dire qu'on croit. Et puis il a beaucoup de descendance aussi. Il y a les Koopa Junior.
Mais on se demande bien avec
Junior.
Qui alors, tu vois, parce que quand même, il kidnappe Peach à chaque fois, peut-être qu'il a 5 minutes pour. Tu vois.
Bah, en tout cas, comme on n'a jamais vu Mario et Peach faire quoi que ce soit, on se pose peut-être la question. Hein. Et puis sur Internet, existe une...
Imagine la grande révélation du jour où on dira Peach était en...
Ça saoule en fait que Mario se pointe à chaque fois et interrompt le truc.
Elle fait exprès de se faire kidnapper et tout.
De toute manière, ceux qui nous écoutent ne sont pas sans savoir que sur YouTube, vous pouvez taper Peach is the Beach et découvrir la véritable histoire de Peach. Si vous ne l'avez pas encore fait, pencherez-vous. Trois mots à taper dans YouTube ou Dailymotion. Vous devriez tomber sur quelque chose d'assez savoureux. Allez, on enchaîne avec un autre méchant. C'est une femme. Enfin, pas vraiment. Elle a la voix d'une femme. C'est dans Portal, qui est donc sorti en 2007. Et c'est un personnage vraiment particulier, Car.
Oui, c'est une IA complètement tarée.
Comment elle s'appelle ?
GLaDOS, GLaDOS, on peut prononcer un peu comme on veut, donc en fait est le truc qui nous dirige pendant tout le jeu. On comprend relativement vite qu'elle se fout de notre gueule.
C'est le seul personnage avec qui tu as.
C'est le seul personnage qui parle. On n'a même pas vraiment de contact parce que c'est à sens unique. Hein. Elle parle et quand on ne fait pas ce qu'elle a dit, elle parle de plus en plus méchamment, etc. Et puis à un moment, elle va absolument nous faire tuer notre petit cube adoré compagnon et ça, c'est pas possible, quoi, tu vois. Donc c'est la guerre. Et à la fin, c'est le boss de fin. On se frite contre l'ordinateur qui a donc des membres, etc., qui a des pouvoirs à la con. Pour l'abattre, et c'est vraiment vraiment bien foutu, et surtout elle est complètement intégrée dans tout l'univers du jeu, quoi.
Et ça fait partie de ces méchants qui au début on pense sont des amis, sont des alliés, puisqu'ils te parlent, ils te font subir des tests, on sent qu'il y a quelque chose de louche.
C'est super anxiogène dès le départ.
Ouais. Il y a surtout, je crois, à l'avant-dernier niveau ou dans les derniers niveaux où elle te dit genre jette-toi dans les flammes, vas-y, voilà, tu verras, c'est super, etc. Et c'est la première fois où on sent que vraiment là ça part complètement en vrille.
Et nous on part sur le côté en fait, dans un truc un peu rouillé, et on sort en fait du truc de test.
Ça me fait penser à MGS2 en fait, à la fin d'MGS2.
Ouais. Où le colonel demandait d'éteindre la console, etc. Exactement. Et devenait cyborg.
Il y a des gens qui l'ont fait.
Et une certaine catégorie de la population assez conne l'a fait.
Un julo.
On est au moins deux dans cette pièce, hein, effectivement. Mais comme moi, dans Portal, j'ai fait une sauvegarde. Non, mais la première fois, je suis passé, puis je me suis dit, peut-être que si on jette, il y a quand même. Elle dit peut-être quelque chose en plus.
Non, on crame.
Elle est très contente d'ailleurs.
Ouais, mais en plus, il faut vraiment la battre, puisque rien que pour la chanson de fin chantée par GLaDOS, le jeu vaut d'être joué. Quoi. Le générique de fin est un des meilleurs des jeux vidéo, de l'histoire des jeux vidéo. Quoi.
Mais c'est vrai que le boss, enfin, lorsqu'on la rencontre au final, genre cette espèce de grand ordinateur, je trouve, est une séquence, mais vraiment culte de l'histoire du jeu vidéo, parce qu'elle essaye vraiment de te convaincre au fur et à mesure de pas le faire. Et il y a vraiment des moments où c'est vraiment pathétique, mais où on se pose quand même la question. On se demande ce qu'on fait. Elle essaye par tous les arguments les plus psychologiques, les plus fins.
Il y aura du gâteau.
Ouais.
Mais the cake is a lie.
C'est assez bien trouvé, effectivement. C'est
super bien fait. C'est un méchant. Jouez-y si vous l'avez pas fait. C'est vraiment c'est un bon jeu.
C'est génial de faire un méchant que tu vois jamais. Ouais. Voilà.
Ne fait qu'entendre.
Jusqu'à la fin.
La voix off ultime.
C'est un peu HAL dans 2001 de l'espace.
C'est la même génération. Mmh. C'est l'IA maléfique qui a pété les plombs. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est pas grave, elle est là et toi, il faut que tu survives.
Exactement. Allez, on va faire un bond dans le temps. On va passer en 2006, 20 ans après sa première apparition en 86 sur NES. Ganondorf faisait son retour dans Legend of Zelda Twilight Princess. Il était né en 86 donc. Et alors, bien belle histoire que Ganondorf, hein. Déjà plusieurs noms, pas mal d'histoires autour de ça, Traz, puisque en fait, il aurait plusieurs formes, un petit peu.
Oui, effectivement, il a plusieurs formes au fil de ses de ses aventures. On l'appelle Ganon quand il a une forme particulière.
En forme animale,
et Ganondorf quand il se transforme en super vilain méchant de la mort.
Quand il est en fait vraiment lui-même, ouais. C'est ça. Voilà. En fait, il a une forme secondaire, la forme animale, que celle qu'on retrouve dans Zelda 3 en cochon, qu'on retrouve sur les épisodes de Nintendo 64 où il a quatre pattes, il a une espèce de corne qui lui pousse, espèce de grand. C'est pas un dragon, hein, je sais pas comment on pourrait le qualifier. De Cerbère un peu, sauf qu'il a qu'une tête, et qui est un peu la technique d'ailleurs de Super Mario 64, où il faut lui passer derrière et le fracasser la queue avec des flèches de lumière, mais on le bat en mode Ganondorf, donc sa forme humaine.
En
lui renvoyant comme ça ses boules d'énergie, qui est d'ailleurs un grand gimmick des combats contre Ganon, hein, puisque c'est déjà le cas dans Zelda 3. C'est de nouveau le cas sur Nintendo 64 avec Ocarina of Time.
Il apprend pas.
Non. Mais par contre, je trouve qu'il gagne de plus en plus en classe et son visage est en train de...
Quand on l'a découvert sur N64 notamment, putain, il avait vraiment la classe, quoi. vraiment la classe.
Mais dans le dernier épisode, il a vraiment un look, et puis il commence à parler surtout.
Un look plus viril, c'est vrai qu'il fait moins, moins bébé, moins pour les gamins. Quoi. Donc, il a bien évolué au fil du temps, et c'est pas plus mal, quoi, parce que bon, Nintendo, en général, ils aiment bien avoir des petits, enfin des méchants.
Il n'y a pas beaucoup de vrais méchants
plus rigolos,
chez
mais
Nintendo. Et...
Bah, Ganondorf, justement.
Ganondorf, c'en est un.
Ah bah ouais,
il dénote un petit peu avec les autres, c'est vrai.
Clairement, on parlait de Bowser là, il y a quelques instants, qui est finalement un méchant un peu loser. On pourrait parler, mais on a décidé d'en faire un petit peu l'impasse, de Wario, qui est finalement un méchant. Bon, enfin, un méchant qui récolte des pièces et qui saute sur des petits personnages comme son frère Mario.
C'est ce qui fait qu'il est génial aussi. Mais...
Voilà, et puis qu'on incarne directement. Mais c'est vrai que Ganon, c'est le seul héros Nintendo, enfin le seul héros maléfique qui reste vraiment maléfique constamment, qui n'a jamais, ne formule aucun regret, qui perd toujours, mais qui perd avec un peu plus de prestance. Et c'est vrai que le combat, surtout.
En résistant un peu plus. Quoi.
Avec son espèce de méga cochon d'Inde, là. Enfin pas cochon d'Inde, mais de.
Ah oui, ça a l'air impressionnant.
De facochère, enfin de gros sangliers mutants, là.
Attends, on est passé du cochon d'Inde. Sanglier, voilà. Mec.
Sanglier mutant.
Mutant, voilà. Enfin, très gros. Hein,
Tu connais Razorback? Ben voilà, c'était ça.
Et ben c'est ça. C'est un peu l'idée. Enfin, il est beaucoup plus flippant, et effectivement. Et si on a hâte de le voir dans une nouvelle incarnation, dans un nouveau Zelda, qui pourrait peut-être arriver, hormis l'épisode sur DS présenté à l'E3, là, qui va se tenir dans quelques jours maintenant, quelques semaines. Hein, soyez présents sur gameblog.fr. Nous, on y sera en live à l'E3 à Los Angeles du 2 au 4 juin prochain. Voilà. Allez, on enchaîne avec un autre méchant qui lui aussi, hein, un petit peu à l'image tout à l'heure de GLaDOS dans Portal, ne fait surtout que résonner sa voix pendant quasiment 98% du jeu. Il s'agit de Dormin en 2005 dans Shadow of the Colossus.
Tout à fait. Un ennemi invisible pendant tout le jeu. Et surtout qui te trompe dès le départ, parce qu'en gros le but du héros dans Shadow of the Colossus c'est de ressusciter sa belle, et lui il lui propose le marché suivant, c'est d'aller buter chacun des 16 colosses, je crois qu'il y en a 16, et tu te rends compte au fur et à mesure et trop tard que en fait ces colosses là c'était ce qui scellait en fait justement le démon
Dormin,
voilà, et que finalement tu le libères et que ça se finit très mal
en fait,
voilà.
On pactise un peu avec le diable à son insu, parce qu'au début on croit qu'il est là pour nous aider, mais
et tu n'en tires rien, voilà.
Non, et puis il y a c'est vraiment la fin de Shadow of the Colossus, c'est magistral, parce que
elle est vraiment magistrale. C'est le moment où tu fais le lien avec, on a le droit de le dire
justement
aussi,
fermez-vous les oreilles, revenez dans 40 secondes pour ceux qui ne veulent pas le savoir,
c'est
mais
c'est le moment où tu fais le lien avec Ico. Enfin, avec l'univers d'Ico, et que tu te rends compte parce qu'effectivement le tu t'es pas bouché les oreilles, c'est bien, tu as pas filmé, tu t'en fous. D'accord,
Cap veut savoir.
Non, et tu te retrouves dans la peau d'un bébé avec des cornes, n'est-ce pas, et si vous avez joué à Ico, voilà, ça vous dira forcément quelque chose, d'autant que tu peux aller tout en haut, ensuite dans le jardin qui est tout en haut de la tour, et tu reconnais d'Eden, vraiment voilà, c'est des décors qui te disent vraiment quelque chose.
Ouais. Et puis effectivement, à la fin, Dormin est donc incarné en espèce de grand géant, colosse final, colosse ténébreux, et puis il y a les membres.
Ce qui est génial d'ailleurs, c'est que je sais pas si ça vous a fait ça à vous quand vous avez joué à Shadow of the Colossus, mais je crois que ça fait ça à tout le monde. C'est que quand tu finis par avoir un colosse, même dès le premier, t'as une espèce de petite tristesse intérieure, comme ça tu te dis putain merde, parce qu'il meurt de façon t'as l'impression qu'il souffre, et puis il te fait de la peine presque. Et non, c'est vrai, c'est très bizarre, et cette sensation dans Shadow of the Colossus,
rire.
Et quelque part c'est comme si on se doutait
puis il y a la musique qui joue aussi,
voilà, de ce qui
et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, de manière imperceptible au début et puis de plus en plus marqué, on voit le personnage, hein, qui a pas vraiment de nom, hein, The Wanderer, qui se courbe de plus en plus, puis qui est commencé à être un peu enveloppé,
il absorbe en fait toute cette fumée noire, là,
et donc on sent effectivement, mais à la fois on veut essayer de casser le sortilège, enfin de ressusciter sa femme, sa belle,
et de finir le jeu.
Et de finir le
jeu.
Ouais,
en fait, t'as envie de finir le jeu.
C'est ça, et de savoir l'histoire, mais effectivement, le lien avec Ico à la fin est évident. On va passer maintenant à d'autres méchants. Hein. Angel voulait en parler. Alors, eux, ils sont pas diaboliques, hein, loin de là. Eux, ils sont bien en. Ils ont bien les pieds dans la réalité, mais à la fois ils sont un peu comiques aussi. C'est des personnages un peu cartoon. C'est tous les procureurs des Phoenix Wright. Hein. Ils sont nombreux.
Ouais, et ils défoncent tous.
Alors comment ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont si méchants?
Alors les procureurs de Phoenix Wright, c'est des super tueurs du barreau, quoi. C'est à côté Perry Mason, ils vaut rien. Non mais vraiment, c'est toujours des procureurs qui ont jamais gagné, qui ont jamais perdu une affaire, qui envoient tout le monde en tôle, tu vois, qui avec un début de preuve envoient les gens sur la chaise électrique.
Et surtout qui sont prêts à truquer un peu.
Exactement. Trucs, ouais. Ils se font pas tous justement. Alors donc il y a le premier procureur qui a fait son entrée, c'était Benjamin Hunter,
ou Miles Edgeworth, comme on l'appelait, je crois.
Ouais, dans la version anglaise.
Dans la version américaine. Et lui, non, lui, c'était un vrai procureur, c'est un vrai killer, mais qui par contre croit vraiment dans la justice. Et là, on retourne. Et là, on retourne justement dans les vilains à la Dragon Ball. J'en parlais avec Julo, tu vois, à savoir le super vilain qui après devient gentil parce qu'il se rend compte que le combat il est pas là, etc. Et il croit vraiment dans la justice. Donc dans les volets suivants, là, il devient sympa.
Et d'ailleurs, c'est le héros du dernier volet.
Exactement. Après, sinon, t'as d'autres personnages qui sont loufoques. T'as Francesca von Karma, qui est donc fille d'un très grand procureur qui a fait ses études en Allemagne et qui n'a jamais perdu une affaire de sa vie, mais à cause de nous, donc elle en perd une. Et dans le dernier Phoenix Wright, là, il y a Goroth. Là, c'est n'importe quoi, c'est genre. Enfin, il a un viseur comme le X-Men.
Ah bon ?
Ah ouais, mais c'est n'importe quoi. Et il parle, il est super mystérieux et tout. Et évidemment, bien sûr, c'est un killer lui aussi. Bref, voilà.
Un killer du barreau, hein, vous l'aurez compris, hein, les procureurs.
Mais Perry Mason à côté, j'y arrive même pas.
C'est de la gnognotte.
Ah non, mais non, c'est un surminable, quoi.
D'accord.
Voilà.
Allez, on passe en 2003 avec un personnage qui lui avait fait ses premiers pas en 1996, dans Blood Omen. Il s'agit de Kane, qu'on avait vu en 2003, donc dans Legacy of Kane, Défiance.
Un autre vampire.
Exactement.
Un autre vampire, oui, qui est né effectivement dans un jeu qui a été développé par Silicon Knights sur PS1, un bon vieux RPG action en 2D.
C'est génial.
Qui était effectivement très 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 bien, même si c'était un petit peu vieux à l'époque, parce qu'on
c'était l'ère de la 3D, il fallait se taper un jeu en 2D vu du
voilà,
dessus.
Mais en même temps, il était vraiment super bien.
Il était tellement riche, long, génial, quoi. Que...
Et c'est donc, comme par la suite, il est devenu un méchant un peu particulier, pas trop manichéen, qui est dont le destin est en fait emmêlé avec celui de Raziel, pour ceux qui s'en souviennent, qui était donc le héros du second jeu de cette pentalogie, et qui était son général, qui est le personnage bleu avec les ailes de Soul River.
Et un foulard pour cacher sa mâchoire manquante.
Exact. Et qui était donc né vampire, lui aussi, qui a été le fils de Cain, le fils vampire de Cain. Et donc Kane est un personnage que tu retrouves sur toute la série, dont la dernière apparition c'est dans Défiance, avec une histoire très compliquée avec des sauts dans le temps et des tas de trucs un peu chelous, mais qui est une bonne histoire. Il a fait une autre apparition en jouable dans Blood Omen 2, mm-hmm. qui est un mauvais jeu.
Très bien, ça c'est fait.
Voilà, mais bon, pour ceux qui sont fans de l'univers et de l'histoire, qui vaut le coup d'être joué aussi. Voilà.
Très bien.
Ce qui est génial, justement, par contre, c'est un peu comme Robotnik et tout ça, c'est le gentil à la base, surtout que là, tu l'as joué en tant que gentil dans un premier jeu avant, quoi. Ouais, enfin, pas forcément gentil. Enfin, gentil, on se rappelle qu'à la fin, il fallait choisir entre faire tout faire péter et tout reconstruire, quoi. Ouais, ouais. Et tu pouvais faire le choix, effectivement, que tu voulais. Mais même pendant tout le déroulement du premier jeu, donc là, Blood Omen Legacy of Kain. Tu peux tuer des. Tu tues des.
Ce qui est génial, c'est que tu vois toute l'évolution et tu la joues entre le mec de base, le héros, quoi, qui devient Kane, quoi. Voilà, qui devient le Kane qu'on voit après dans Soul River et tout.
Ouais, et puis tu repars encore dans les histoires avec les sauts dans le temps, etc. Mais c'est pas vraiment un méchant. Enfin, il est pas juste bête et méchant comme beaucoup d'autres, quoi. C'est ce qui fait aussi que c'est un personnage qui est intéressant. C'est plutôt un adversaire quand tu joues Raziel dans les Soul River. Et en tant que rival, en tant qu'adversaire.
C'est un méchant qui a de l'étoffe.
Voilà.
Bah non, mais c'est pas une blague, hein. Il est juste très étoffé, narrativement parlant. Justement, garde le micro, Raon, parce qu'il y en a un autre et qui, je crois, a aussi un background assez intéressant. Et lui, il a œuvré dans Knights of the Old Republic. Il s'agit de Darth Malak.
Ouais, enfin, il a un background intéressant, il faut le dire vite. C'est un Sith.
Il a un background intéressant.
Il est comme. Pas mal, vas-y, refais-le.
Il a un background intéressant.
Il a un background intéressant. Bref, donc.
C'était très très intéressant, ma foi.
Merci les gars.
Allez-y.
C'est un Sith, donc pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, peut-être y en a-t-il. Je ne sais pas. Tu connais ? Tu sais ce que
oui,
c'est ?
Oui, je sais ce que c'est.
Bon, bah, c'est les méchants Jedi, en fait. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est l'adversaire tout désigné pour le joueur. Donc, c'est pour ceux qui ne voient pas qui c'est, il a une espèce de. Lui aussi, dans son costume, quelque chose qui masque sa mâchoire inférieure. Et la peau très blanche avec des espèces de tatouages gris, trois lignes grises sur le visage. Voilà, mais bon.
Il a de quoi faire rêver.
C'est un Sith, donc de base, c'est très manichéen. Hein. Je veux dire, les Sith sont juste là pour être méchants, quoi. Voilà.
D'accord. Bon. Alors, On va parler de quelqu'un qui est tout aussi manichéen, mais qui lui a bien caché son jeu. C'était en 2002, dans un très bon RPG sur la Game Boy Advance, dans Golden Sun. Raconte-nous un petit peu l'histoire d'Alex, Kaf.
Alex, quel nom
basique, hein, sympathique, Alex Kidd peut-être.
Voilà, tu vois, mais c'est, non, pas le même genre. Non, c'est, ouais, c'est, je ne vais pas dire de gros mots, mais c'est un personnage qui t'accompagne pendant toute l'aventure, hein, qui t'aide, qui est ton ami, ton frère, ton, tu vois, le gars vraiment qui est toujours là pour toi.
Ton buddy, quoi.
Et en fait, c'est le bad guy du truc, quoi. C'est à la fin, tu t'aperçois que, exactement un peu comme dans Shadow of the Colossus, c'est le mec qui t'a retourné pendant tout le truc, t'as fait tout le boulot, et à la fin, voilà, il récolte les fruits et les, pour vraiment se révéler au grand jour. Et c'est le boss, quoi. Donc c'est juste hyper... Narrativement, c'est super bien amené, quoi. T'es juste hyper deg. Et comme tout passe par les textes sur GBA, c'est
tu t'es lié d'amitié avec ce personnage.
Ouais, t'as 3 pixels de haut, tu vois, ouais. C'est ton pote, tu le reconnais, tout ça, tu fais high five et tout. Et en fait, non, à la fin, pas du tout, ça se passe très très
c'est
mal.
C'est un gros traître.
C'est un gros gros traître, c'est un de mes traîtres préférés, parce que tu le vois vraiment pas arriver. Enfin, ouais. C'est en plus, ouais, Alex, c'est ridicule, quoi. Et alors le boss, il s'appelle Alex, ouais, je l'ai croisé hier au McDo. Et non, non, voilà, tu le sens pas du tout arriver, lui. Il a pas un nom de méchant ou un truc comme ça. Tu
il aurait pu s'appeler Roger. Hein.
Ouais, Roger, déjà, tu vois, tu le sens plus arriver un peu.
Oui, c'est méchant, Roger.
Ça va, ça va, les Roger.
En tout cas, c'est un joli traître, beaucoup de traîtrise sur Golden Sun en 2002. Mais alors attention, parce que là, on va arriver à un moment clé, charnière de ce podcast.
Attention.
Puisque là, nous arrivons à l'an 2000. Et l'an 2000 nous a réservé de belles surprises en termes de beaux méchants sur une console en particulier, pourtant immaculée. Elle était blanche, elle s'appelait la Dreamcast. Et en 2000, c'est Shenmue, Julo, c'est Landy.
C'est à toi.
Landy.
Tu Landy, peux parler de Shenmue c'est... maintenant.
Ouais, mais je pensais en fait que t'allais l'oublier, que j'allais pouvoir faire la vanne, machin, tout. Non, ok, d'accord. Bien. Donc, Landy, oui, c'est un sacré méchant et on ne saura jamais vraiment pourquoi. Et ça, c'est triste. Voilà.
Parce qu'il veut un putain de miroir.
Il, voilà.
Where is the mirror?
Non, mais il y a tout un truc.
Father parce que ça aussi, tu l'oublies, hein, mais chez toi aussi, il y a du father.
Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Un peu plus classe. Et non, voilà, effectivement, donc il vient buter ton père, ce qui est pas cool déjà. Ça en fait déjà un bon méchant.
C'est très, très gentil. Ouais.
Voilà, il y a beaucoup de méchants d'ailleurs.
Et d'entrée de jeu d'ailleurs.
Voilà, d'entrée de jeu. D'ailleurs, c'est comme ça que tout commence. Et tout ça pour récupérer un miroir. Ah. Et comment ça finit? Bah voilà, on ne sait pas. Et t'es teasé en fait pendant tout le jeu. Tu en découvres toujours un petit peu plus, etc. Mais pas beaucoup.
Ce qui est intéressant avec ce méchant, donc c'est un grand chinois habillé vraiment magistralement. Il a vraiment la classe, ouais. Toujours les mains dans le dos. Il regarde rarement les gens de face. Il les regarde un petit peu en retrait, de dos. Il snob un peu tout le monde.
Il est surpuissant.
Il impose le respect. Et puis il a l'air d'avoir même un peu des pouvoirs en fait.
Bah en fait oui, bah d'ailleurs c'est ce que tu découvres à la fin de Shenmue 2, voilà.
C'est miroir magique.
Non, mais effectivement il y a un peu c'est tout le si tu veux le fantasme des arts martiaux un peu magique, quoi, voilà. Dans la tradition.
Parce que c'est un grand maître
purement chinois,
des arts martiaux, en fait.
C'est un grand maître des arts martiaux qui a souffert apparemment de il y a des histoires de clans, etc. C'est assez compliqué, mais je peux pas vous en parler plus précisément que ça parce que
t'as vraiment pas la fin.
Mais on ne connaît pas la fin, voilà. Et c'est pour ça que souvent je me dis bah il pourrait au moins, je sais pas quoi, sortir le script, soulager les gens, quoi. Mais non, on ne sait jamais, on ne saura jamais.
On ne connaîtra pas la véritable identité de Landy, pourquoi est-il si méchant, on ne le saura pas, voilà. Ou peut-être un jour.
Alors, ça se trouve, c'est un gentil.
Ouais. Au dernier épisode, celui qui sortira pas. Alors, toujours sur Dreamcast, toujours en l'an 2000, l'apparition de deux personnages vraiment forts, vraiment méchants, vraiment malfaisants, c'était dans Resident Evil Code Veronica. Il s'agissait de jumeaux.
Oh là là.
Le duo incroyable, vraiment, qui donne la chair de poule, effectivement. Alfred et Alexia Ashford. Alors, on rappelle un petit peu, hein, donc Alfred, qu'on voyait, était complètement schizophrène, se parlait à lui-même, se travestissait.
Enfin, on le savait pas. C'est le moment où tu le découvres, ouais. Justement, c'est génial.
Au tout début, on ne le savait pas. Et il se travestissait, il se maquillait pour être comme sa sœur, qu'il avait cryogénisé 15 ans auparavant.
Que cool, le mec, quoi.
Ouais, c'est une sympathie.
Il a aucun problème dans la vie.
Bah non, parce qu'en fait, tout est parti. Parce qu'au début, c'était deux jumeaux assez sympas, cool. Puis un jour, ils ont découvert que leur père, en fait, avait trafiqué leur ADN. Et donc, une partie d'ADN d'une ancêtre de la famille des Ashford, qui s'appelait Veronica, d'où d'ailleurs le nom, code Veronica. Et, attention, pris aussi l'ADN d'ovules de fourmis. Voilà, donc en fait, ils étaient la résultante d'un humain cette et de fourmis.
Ils prennent des trucs, les scénaristes de cette série, quand même.
C'est pour ça qu'à la fin du jour, elle se transforme en méga fourmi, etc. Enfin bon, c'est
ça m'a l'air d'un bordel.
Et du coup, comme il adore sa sœur et qu'ils sont jumeaux, il la cryogénise. Mais en attendant, ils ont d'abord tué leur père, ils ont fait des expériences
et
avec
toi, t'adores tes soeurs, tu les virus, etc.
Non, je préfère les voir de visu et leur parler et les aimer, vraiment, plutôt que dans un bloc de glace. Mais c'est vrai qu'ils étaient vraiment les deux, et un couple malfaisant à l'extrême.
Bah, complètement fou aussi, c'est ça. Ça fait partie de ces méchants fous et c'est ça qui est un peu flippant quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'au début du jeu tu les vois apparaître comme deux personnages, tu vois, d'un coup il y en a un, puis une fois c'est un autre, puis le moment où tu te faufiles un peu dans le manoir et tu vois comme ça dans, je sais plus, il y a une porte qui est à moitié ouverte,
dans l'autre bâtiment d'une
fenêtre, et tu le vois en train de parler à sa sœur, et tu crois vraiment qu'il parle à sa sœur, et puis là tu commences à voir qu'en fait il est devant un miroir et qu'il pète complètement un câble,
quoi. Alfred Hitchcock, et ça c'est génial. Années avant,
ouais, c'est ça, c'est un peu psychose,
ouais tout à fait, ouais. Donc voilà, un grand méchant pour ça, quoi.
Effectivement, la famille.
Et le méchant dans le manoir, Kubrick l'avait fait bien avant dans Shining.
Mais parfois, réadapter des bonnes choses n'en font pas des mauvaises.
Ah oui,
les influences, tout ça.
Ouais, ouais. Les jumeaux Ashford, des jumeaux très importants en tout cas dans toute la mythologie Resident Evil, clairement. Julo, toujours en 2000, un très grand jeu, hein, l'un des tout premiers d'ailleurs à avoir eu 40 sur 40 chez Famitsu. Il s'agit de Vagrant Story, un jeu magnifique, marquant, très 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 dur, hein, quand même.
Très dur.
Et qui donc a donné naissance à un méchant, prophète d'une secte. Il s'agissait de Sidney Lostaroth.
Tout à fait. Alors déjà, il avait la classe. Mm. Et le jeu...
Pendant que Kaf est en train d'imploser de rire.
C'est à cause des prénoms, en fait. Il se parle depuis tout à l'heure. Alfred, Sidney, etc.
Ok, donc je rappelle les noms des trucs de Kaf. Hein. Keltas, Illidan, Stormrage, Nefarian, Knun. Voilà. Bon, vas-y, Julo.
Cela dit, moi, je suis d'accord. Naxramas. Tous les Sidney ont la classe. Tu vois, HIP, HOP, tout ça.
Donc, Julo.
Ben non, alors, donc, super design, blondiné, torse nu, la classe.
Ah, on dit des torsionnistes, c'est classe, en fait, c'est la classe, quoi.
Non, mais bon, enfin voilà.
Ouais, avec un grand tatouage dans le dos.
Exactement, un grand tatouage, et puis surtout des pouvoirs ultra mystiques. Il pouvait. Le jeu commence, en fait, il invoque une espèce d'énorme dragon qui débarque dans l'endroit où tu te trouves dès le début du jeu. Et puis voilà, c'est le chef d'une secte un peu zarbi qui essaye de reprendre un peu le pouvoir dans ce monde de Léa Mundis.
Scénario de l'équipe d'Ivalice, hein, donc
voilà, tout à fait, ouais.
La meilleure équipe de Square à mon avis, mais bon,
exactement, ouais, certainement, on peut le dire.
Pour ce qui est des histoires,
en tout cas
des
pour ce qui est des
ouais.
univers, voilà, il déchire, quoi.
Moi je préférais l'équipe de Sakaguchi, hein, mais bon. oui, je maintiens.
Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'il essaye de léguer un peu son pouvoir. Donc, il a un côté vraiment intéressant. C'est pas le méchant qui a le pouvoir, qui veut prendre plus de pouvoir, etc. Et il cherche un peu un successeur. Voilà.
Et puis, on découvre à la fin de l'histoire, en plus, qu'en fait, c'est pas vraiment si méchant que ça. Il y a une histoire de rédemption et du coup, il en devient très humain.
C'est vraiment pas manichéen, en fait, du tout, Vagrant Story. Et voilà, tu crois être dans le noir ou le blanc, et puis en fait, t'es dans le gris, et puis tu passes tout le temps
de
l'un à l'autre, et de comprendre vraiment tout ce qui se passe entre ces différents groupes, voilà. Et surtout que le jeu est fantastique,
donc. Exactement. On saute une année, on arrive cette fois-ci en 1999. D'ailleurs, j'hallucine de me rendre compte à quel point des années sont passées. 99, j'ai l'impression que c'était hier, et pourtant non, c'était il y a déjà plus de 10 ans. Resident Evil, une fois de plus, Resident Evil 3, celui qu'on appelait Last Escape, ou Resident Evil 3, ou Nemesis, parce que justement, il y avait ce personnage incroyable, le tyran suprême, cet être qui arrivait à tout moment, qui pouvait débarquer, casser un mur avec son lance-roquette et qui criait Stars, et qui était mais terrorisant.
Ce qui est génial, c'est que t'entendais Stars, ou alors t'entendais une porte qui se défonçait, puis il est pas, et ça fait partie de ces boss, enfin en tout cas de ces méchants, ces vilains, qui sont vraiment flippant, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que voilà, c'est pas flippant.
Il courait.
C'est pas...
C'était la première fois dans un Resident Evil qu'il y avait
dessus,
des ennemis qui couraient comme ça.
Il était imbattable. Et il fallait toujours trouver une ruse en fait dans le décor ou un truc comme ça pour essayer de le ralentir et de te casser, quoi. Ouais. Mais dès qu'il arrivait, vraiment, c'était le méga stress. Mm. Et ça, voilà, c'est ce qui le rend culte, quoi, parce que tu avais vraiment le trouillomètre à zéro. Quoi.
Et puis qui donnait vraiment une nouvelle orientation à Resident Evil, hein, d'ailleurs.
Ouais, c'était
beaucoup plus rapide, beaucoup plus stressant, plus oppressant encore qu'avant. Et puis il y avait une séquence cinématique incroyable vers la fin du jeu où on croyait que c'était la fin, qu'on avait gagné, etc. Il y avait la musique qui partait symphonique, on voyait l'héroïne qui partait, genre ouais, c'est super, l'hélico qui est en train d'arriver, comme dans tous les Resident Evil. Puis tout d'un coup, la musique faisait nanana, et là, brrr, une roquette qui part, et en fait, il était juste derrière, en fait, il se réanime après qu'on l'ait tué 15 fois, comme d'hab, dans les Capcom.
Il est juste invincible, il est trop flippant, il a une sale gueule.
Il est pas facile à battre, oui, clairement. Angel.
Et dans mes souvenirs, il arrive très tôt, non, dans l'aventure.
Ouais, direct.
Ah, tout de suite, direct.
T'as pas le temps de dire ouf, t'es là, tu te balades tranquille, et d'un seul coup, tu comprends qu'il y a un mec qui va juste te poursuivre pendant tout le jeu, et que ça va être trop stressant, quoi.
Et c'est un peu l'angoisse.
Clock Tower.
Exactement. Alors, 1998, on avance un petit peu avec cette fois-ci un jeu PC, StarCraft, avec une méchante. Ah, bah ça, c'est assez rare quand même, mine de rien. Sarah Kerrigan. Qui veut Caf, Raon ? Raon.
Ok. T'es sûr ?
Okay.
Non, bah vas-y.
C'est surtout le personnage. En fait, StarCraft, c'est un personnage qui est arrivé surtout avec l'extension Broad War, hein, qui est sortie après.
C'est la star de l'extension.
C'est ça, celle qui fait la couverture du jeu, enfin la jaquette. Et qui est, alors dans StarCraft, il faut savoir qu'il y a trois races principales dans cet univers. Il y a les Terrans, sont les humains. Il y a les Protoss qui sont les
mecs classe.
Voilà, les mecs un peu classe qui ont des pouvoirs psychiques. Mm-hmm. Et les Zergs qui sont la race insectoïde avec un esprit de ruche. Et Kerrigan, en fait, à la base, était une humaine qui était une ghost, en fait, comme l'héroïne du jeu qui ne sortira jamais.
StarCraft Ghost, ghost hein, donc, voilà.
C'est-à-dire des humains qui ont des pouvoirs psychiques et qui sont des snipers et qui passent en général, qui sont des éclaireurs dans l'armée des Terrans. Et elle a été purement et simplement laissée derrière elle, par les armées Terrans sur une pauvre planète. Et elle s'est retrouvée, absorbée par les Zergs, ouais. Assimilée par les Zergs, un peu comme les Borg dans Star Trek.
Exactement.
Et donc c'est un personnage qui est revenu ensuite, qui a gardé sa personnalité, qui est devenu mi-humaine, mi-Zerg, et qui a pris beaucoup d'importance chez les Zergs. Voilà.
Okay. Et elle était super classe.
Elle était surtout super chiante et super balèze, mais...
Bah justement, en 98, visiblement, ça devait être l'année des femmes un peu maudites, hein, des femmes qui s'assumaient mais qui avaient envie de faire le mal, puisque en 98, c'était sur PlayStation première du nom, il y avait aussi Metal Gear Solid, on en a parlé tout à l'heure, mais si on vous en a pas parlé au moment des Psycho Mantis et Revolver of Swords, c'est qu'elle, on ne l'a vu que dans MGS 1, le premier du nom, et pour cause, elle y meurt. Et il s'agit de Sniper Wolf, on va aller vite là-dessus, mais c'est vrai que c'était un grand méchant.
Ouais, bah alors déjà, le combat est classe, hein, c'est un combat de snipe, évidemment, vous l'aurez deviné avec le temps du
personnage. Donc c'est un combat classe, on est d'accord.
Donc dehors, dans la neige, etc. Et puis les deux personnages se parlent en même temps qu'ils essayent de se sniper. Et tu finis donc, évidemment, par la tuer. Et puis elle se retrouve allongée dans la neige, tu vas la voir et tu lui causes. Et là, tu te rends compte de l'ampleur du personnage, du machin, etc. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment très triste.
C'est très émouvant.
C'est hyper émouvant. Et bah, voilà, un peu comme les colosses de Shadow of the Colossus, tu regrettes presque de l'avoir buté. Et, voilà. Donc c'est un peu, ça fait partie de ces, voilà,
les cœurs
d'artichaut. Ces méchants.
Je suis super d'accord.
Ces méchants qui te font verser une petite larme. Voilà.
Et puis avec la séquence qui malheureusement n'est pas super bien interprétée, mais d'Otacon qui arrive, qui l'aimait en secret, etc. Enfin, bon, il se passe pas mal de choses. Et puis avec tous les loups qui viennent à la fin l'emporter, c'est quand même assez classe.
Et puis
on repart avec un super bandana.
Non, du tout. On repart avec un mouchoir qui porte son parfum et qui permet que justement les loups apprennent ne t'attaquent plus. Puisque justement, elle était l'amie des loups, Sniper Wolf, hein, vous aurez compris, c'était un peu dans le nom. Toujours en 98, visiblement, un grand cru, un nouveau personnage, cette fois-ci on revient du côté du PC, l'un des plus grands méchants de l'histoire du PC peut-être, hein, l'homme à la mallette, très mystérieux, le célèbre G-Man.
G-Man.
Bah, c'est le personnage emblématique de toute la série Half-Life, donc le gars qui est derrière tout, mais pourquoi, comment, qui est-ce ?
C'est un peu comme l'homme à la cigarette
D'X-Files. Et ouais, non, mais complètement.
C'est exactement ça.
C'est la même gueule, limite. Hein,
c'est un peu strictement la même période, d'ailleurs.
Avec un costard et une voix un peu comme
ils
ça.
Changer la cigarette,
toi, tu vas faire ça.
Une valise,
au tout début, dans le premier Half-Life, tu l'entends pas parler du tout. Hein. Tu le vois juste dès le début du jeu, en fait. Enfin, l'intro du jeu. Donc, on est sur le monorail, comme ça, on arrive. On fait l'expérience qui tourne mal. Et puis là, le jeu commence, vraiment. Et pendant que tout est en train de péter à Black Mesa. Au tout début, on voit à un moment furtivement, au travers d'une vitre, ce mec avec sa mallette en train de discuter, une espèce de discussion animée assez violente apparemment, avec un autre type, et puis on le recroise comme ça petit à petit.
C'est avec des scientifiques, en fait.
Voilà, pas vraiment un méchant en tant que tel, mais tu te dis, bon, ce mec en costard qui a l'air d'avancer avec sa mallette alors que ça pète dans tous les sens, il y a des aliens partout, qui a l'air d'être très à l'aise, et que tu. C'est forcément une grosse pute, ce mec, c'est évident, tu vois.
Ça peut pas être qu'un gars corporate avec une cravate, quoi.
C'est ça, c'est pas comme un mec que t'affrontes dans les jeux, quoi. Mais c'est juste un personnage récurrent comme ça. Et puis dans Half-Life 2, dont tu vois le visage qui était. Tu rêves de lui au début. Il parle.
C'est lui qui vient chercher,
une espèce de petit vieux. Ouais.
et tu comprends qu'en fait c'est encore un de ces types qui doit tirer toutes les ficelles parce qu'on n'a pas encore vraiment le...
Ah bah justement, et apparemment il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant, c'est que dans la version anglaise du jeu, il a une voix avec des intonations un peu étranges, il n'a pas l'air très à l'aise avec la langue humaine quoi.
Oui, des fois il a des phrases un peu bizarres, il est... Enfin, il a une façon de parler qui parfois paraît curieuse. Quoi.
Bah lui, il est au courant de tout. Dans Half-Life 2, il y a des extraterrestres, lui, il les connaît.
Mais tu te demandes en fait s'il n'est pas vraiment lié de plus près avec les extraterrestres.
Bah, tu te demandes si ce n'est pas un truc supérieur. Même pas avec cela, hein. Peut-être que c'est encore au-dessus. En tout cas, il a manigancé plein de trucs. Lui.
Personnage mystérieux, donc, qui te manipule un petit peu, qui est toujours là.
Il te manipule à mort. La fin de l'épisode 1 est top. Enfin, voilà, quand ça explose, arrêt sur image. Et lui, il arrive, genre, t'as cru que t'allais crever. c'est super bien fait. Non, franchement, il y a des trucs pas mal. Le scénario, après, on peut dire ce qu'on veut sur Half-Life parce qu'il y a des choses à dire, il y a des critiques à faire, mais ça c'est vraiment bien trouvé.
Et en tout cas, il est toujours présent dans la série, donc on en apprendra à chaque fois de plus en plus.
Il sera dans l'épisode 3, c'est sûr et certain. Quoi.
Allez, on rebrousse un petit peu une fois de plus le temps, on le remonte en arrière, 1987, toujours sur PC, l'arrivée de Diablo et donc le méchant.
Bah, c'est Diablo.
Bah voilà,
quelle surprise.
Logique. Hein,
bon, bah là, voilà, Diablo, il n'y a pas grand chose à dire, à part que quand on s'est tapé des heures et des heures où on a tué des monstres dans des souterrains, etc., et les monstres, il faut à peu près la taille, c'est des squelettes, etc., et qu'on arrive enfin dans la salle où il y a Diablo, bah, c'est une bonne grosse flip avec un bon combat avec ses potes et on a juste pas envie de crever, quoi. Et donc, dans ce sens-là, le gameplay et le truc est bien amené dans la mesure où Diablo a un scénario bien plus complexe, mais ce personnage-là est emblématique, il est simple et en même temps, il est bien relou à buter. Donc il fait son boulot.
Nickel,
c'est un gros démon tout rouge. Hein.
Ouais, voilà.
C'est un boss d'école.
Exactement.
C'est classique, exactement, mais efficace.
Comme Legend, le film, quoi, en gros.
Exactement.
Allez, 1994, autre jeu PC avec un personnage d'ailleurs qui nous rappelle un petit peu, qui est finalement un petit peu l'ancêtre de GLaDOS ou GLaDOS, on ne sait pas trop. Une sorte d'intelligence artificielle, c'est dans System Shock, voilà. Il s'agit de Shodan.
C'est exactement la même chose en fait, c'est une IA qui veut notre peau pendant tout le jeu. Mmh. Et on retrouve, alors là évidemment il n'y a pas les voix digitalisées de la même manière, c'est pas GLaDOS, hein, mais on a cette ambiance où c'est une IA, elle ne comprend pas l'utilité des êtres humains, ces êtres inférieurs qui ne servent à rien, donc elle veut nous buter pendant tout le jeu, mais c'est même pas de la méchanceté, c'est qu'on ne sert à rien, donc il faut qu'on crève.
Elle a dû faire un calcul logique, elle s'est rendue compte.
Exactement, donc un truc qu'on n'a jamais vu dans les scénarios, on est d'accord, mais c'est hyper bien amené, elle veut notre peau pendant tout le jeu, et puis voilà, c'est cette côté, elle a toutes les caméras, donc il faut désactiver les caméras, parce qu'en fait elle nous parle par le système d'annonce centrale qu'il y a dans tous les buildings futuristes, tu vois, et donc elle tease sans arrêt, mais pas méchamment, c'est juste qu'elle en a rien à foutre, on est un rat. Et c'est assez dévalorisant et c'est vachement bien foutu.
Donc finalement, je constate que dans les jeux vidéo, on préfère avoir une intelligence artificielle qui s'exprime avec une voix féminine. Visiblement, ça fait peut-être passer la pilule un peu mieux.
Je pense que
c'est plus doux dans la mort.
Ça doit être ça, ouais.
C'est comme les annonces de répondeurs et tout ça.
Moi, je veux dire, c'est comme dans les GPS. Hein.
Ouais. Exactement.
Enfin, c'est pas comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple, si on parle d'intelligence artificielle, où là, quand même, c'est vraiment une voix masculine. Donc, c'est une vraie différence à ce
niveau-là. Non, mais c'est vrai que là, c'était encore une meuf. Mais c'était hyper efficace et c'était un putain de jeu.
Et puis, dans les GPS, on a le choix. On peut même mettre la voix de Chirac et compagnie. Donc,
ouais, mais par défaut, on met toujours la voix de Nana, je crois. Alors qu'on devrait pas, hein, parce que vraiment les nanas, le sens de l'orientation.
Oh là 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 là.
Je me demandais si j'allais la faire, merci Angel.
Allez, 1993, vous allez voir que dans les jeux PC, ils ont à chaque fois des véritables trouvailles, hein, pour nous faire flipper, pour incarner le mal dans les jeux. Puisque après, donc, Diablo, qui était une espèce de montre de flamme, Diablo, et bien là, dans Doom en 93, bah, c'est le diable qu'on appelle le diable.
Bah, c'est le diable avec Traz, on s'en rappelle bien parce que c'est un des plus gros boss qu'on ait croisé à l'époque en fait. Il est super grand et c'est ça qu'en fait qui était flippant surtout pour l'époque.
Ouais, moi déjà le jeu en lui-même c'est un de ceux qui m'a plus fait flipper parce qu'il y avait la 3D il faisait aussi pour beaucoup mais quand quand il jouait au casque là c'était carrément surréaliste quoi.
Le son des sources
spatiales
et tout,
etc., ouais. C'était extraordinaire mais surtout effectivement donc le boss de fin de niveau gigantesque et pour le buter. Je flippais, mais quand t'entends le son en fait du monstre, c'était surréaliste quoi.
Alors, c'est clair.
Pour vous l'imaginer un petit peu, je vais vous lire les notes de Traz au sujet du diable de Doom 80, qui est sorti en 93 sur PC.
Ah, j'ai peur.
Et qui donc l'annonce comme une espèce de minotaure géant super zarb qui naviguait dans une ambiance qu'il qualifiait à l'époque, donc Traz, d'une ambiance musicale doomienne. Voilà. Ce qui est plutôt approprié pour un jeu.
Oui, tout à fait, mais c'est là qu'est venue l'expression en fait, une musique doomienne parce que. Parce que justement.
C'était avant qu'on ait anxiogène en fait.
Voilà, exactement.
C'est Doumien.
C'est Doumien comme truc.
Les musiques à l'époque, c'était vrai que c'était la première fois qu'il y avait ça en plus.
Ça réagissait en fonction de l'action en fait. Exactement. Et ça, c'était assez nouveau. Et puis le monstre, il faisait un peu 85 mètres de haut. Ouais. Et c'était juste un immeuble. Et on n'avait jamais vu ça quoi.
Train 13 Nord quand même.
Exactement. Hein? Train 13 Nord. Déjà,
les Schnells.
Il me sort. Ah non, c'est Quake. C'est Quake à l'époque.
Non,
je crois.
Apparemment, c'est pas.
Non. Train 13 Nord, c'est après, c'est sur Quake.
Train 13 Nord, exactement. C'était Quake avec les clous, machin.
C'est avant. C'est un mec de chez Eddie qui avait fait les musiques.
J'ai envie de dire fail, mais du coup, pour rester sur une note sympathique, je continuerai avec la conclusion. Vas-y. Que Traz nous a préparée. Avec donc, je cite, hein, toujours Traz, c'est le Devil, en fait, web, gros relou, bien flippant, lol. Voilà. C'est les notes que
c'est
je
fais. C'est Kaf qui a rajouté ça.
Non, j'ai pas rajouté lol.
Ah oui, c'est vrai. C'est caf,
c'est
toi.
Pas possible, j'ai pas rajouté.
J'ai pas mis
lol,
non, mais t'as mis un smiley, donc c'est à peu près pareil.
Ah non, ça n'a rien à voir.
Oh, c'est vrai.
Ah non, je m'insurge. Ah, c'est un smiley, voilà. On a les preuves, je ferai des photocopies.
Allez, on reste en 93, toujours sur PC, avec Day of the Tentacle. Et donc là, une fois de plus, hein, la tentacule pourpre.
Fantastique.
Bah, je crois qu'Angel ou moi, on peut en parler. Parce qu'on tous a
putain, mais. Ma trace, on t'a pas encore beaucoup entendu, du coup.
Oui, c'est vrai, parce que je suis fatigué, en fait. Non, je te connais pas. Bah oui, Day of the Tentacle, donc tentacule pourpre, super bizarre. On se demande ce que fait ce personnage, je sais pas comment il faut l'appeler.
Bah, il est dans l'intro déjà, on sait pas d'où il sort. Voilà. Quoi.
Dans l'intro déjà, ça donne le ton, parce qu'il apparaît en grand comme ça, d'après mes souvenirs, et effectivement, tu te dis. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et en fait, bah, c'est le méchant du jeu.
Puis il a surtout son pote débile, qui est le faire-valoir extraordinaire. Parce que lui, il boit le truc super pollué, et c'est là voilà. Qu'il a ses deux petits bras qui poussent. Et là, il va faire And I will conquer the world. Et à son pote, il fait non, mais tu devrais pas boire ça. Mais pourquoi tu es si méchant maintenant? C'est super con. C'est voilà,
la pub Orangina. Ouais,
exactement. Exactement.
C'est un peu l'idée. Est-ce qu'on a fait le tour sur Tentacule pourpre?
Bon, on le retrouve après, c'est un méchant, il y a
un jeu. Il est vraiment méchant ou c'est un méchant loser?
Ah bah il veut dominer le monde.
Il veut dominer le monde, mais c'est un super raté aussi, ouais. C'est un super loser.
C'est comme
c'est un méchant de dessin animé, mais pour de vrai.
C'est comme les souris Mercure.
Oui, putain, c'est ça. Et je vais pas m'en rappeler non plus.
Minus
et Cortex.
Bien oui, Raon, merci.
Donc c'est à peu près le même principe, quoi.
D'accord.
Donc gros mégalomane, mais qui n'a pas forcément l'intelligence nécessaire.
Avec des bras de 2 cm, donc ça change tout. Maintenant, il peut conquérir le monde.
Parfait. Allez, Traz, on continue avec toi. Toujours en 93, un jeu Neo Geo cette fois-ci. La bonne vieille Neo Geo. Tout à l'heure, on parlait de Bison. Et bah, parlons dans Fatal Fury 2 de Krauser. Ce boss.
Wolfgang de son prénom.
Ah bah tiens,
il est allemand.
Je suis très étonné que tu en parles dans ce cas-là. Oui, Trazom.
D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, donc, quand on l'affronte à la fin. Donc à la fin du jeu, il y a la musique, les Requiem de Mozart qui retentit derrière. Donc forcément sur la Neo Geo, c'était particulièrement sympathique parce que ça boostait bien. Puis à l'époque, à la rédaction, c'était sympa. Même que Greg à l'époque disait que c'était pas du tout le Requiem de Mozart. Alors ça m'énervait parce que j'en démordais pas. Lui, je crois qu'il me disait que c'était Vivaldi ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça.
Parce que vous l'aurez compris que Trazom à l'envers, ça fait un certain nom qui pourrait être Mozart par exemple.
Exactement.
Au hasard.
Ou Beethoven, voilà. Ça dépend.
Si vous êtes nul en orthographe. Ouais.
Donc personnage super charismatique, enfin moi je trouve en tout cas pour un personnage de.
On peut le définir un peu pour ceux qui l'auraient pas combat. Vu ou qui.
C'est un gars qui a failli être nazi, mais en fait il est juste allemand et blanc.
Raon.
Ouais, c'est le mythe de l'allemand. Et alors il se bat torse nu aussi voilà. Dans le dernier niveau donc de Fatal Fury 2, c'est là où il arrive. Mmh. Et je crois qu'il a une cape qui balance en fait au début.
Oui, il jette sa cape effectivement.
Il est torse nu, super grand. Et il avait, c'est lui qui a inventé la grande boule de feu qui prend tout l'écran. Qui est revenu après dans plein d'autres.
Qui était supra relou.
Voilà, tu pouvais pas sauter au-dessus, tu pouvais rien faire.
Faut la parer dans ta gueule.
Je me souviens encore du bruitage.
Non, tu peux pas le faire à la bouche.
Non.
Difficile.
On va tout ça tuer.
En tout cas, Krauser, un grand méchant des jeux de baston. À l'époque, en plus, sur Neo Geo, justement, ça pouvait vraiment prendre tout son sens parce que visuellement, ça, c'était surclasse.
Mais comme disait Tra, c'est vraiment la musique était hyper impressionnante. C'était
vraiment l'ensemble.
En termes de qualité sonore. Mm-hmm. Et se battre sur de la musique classique comme
ça posait le truc quoi.
Voilà, c'est ça.
Ça apportait une carrure supplémentaire évidemment. On reste en 93 et on arrive cette fois-ci sur Super Nintendo avec un méchant assez étonnant, c'est dans Star Fox que ça se passe, il s'agit de Andros. Julo, est-ce que tu peux nous parler?
Ah non, les
forcément.
Gars.
C'était juré, une espèce de visage là comme ça qui t'absorbe dans l'espace. Et...
Voilà, il va bouffer l'univers en fait. Ouais. Lui est quand même, il est ultime quoi. Avec sa grande bouche, il peut manger tout.
Ce n'est qu'un visage.
Ouais, c'est un visage en 3D pour l'époque. Ouais. Donc, parce que Star Fox était le premier jeu 3D sur. D'ailleurs, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres hein, sur Super Nintendo.
On a eu très peu.
Super FX.
Et à vrai dire, je n'ai pas grand chose à dire sur lui, si ce n'est que.
Il t'aspirait, il te recrachait. Il se défaisait avec des plaques et dans les jeux suivants.
Et c'était quand même super impressionnant pour l'époque. Mm.
Et dans les jeux suivants, il était plus humanisé puisqu'il apparaissait avec un corps, etc. Une espèce de tête un peu plus. De soit très gros vieillard, soit de singe.
Il avait même des mains d'ailleurs.
Oui, bah, ouais. Il avait un corps humain. Hein.
Ouais.
Et une tête un peu étrange.
Oui, tout à fait.
Andros, effectivement. 92, on avance, on arrive vers la fin un petit peu de tous ces méchants. 92 avec un méchant. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de listing, de catégories incontournables. On parlait des zombies, des extraterrestres, des terroristes et des nazis. Et ben là, il y a le roi des nazis, puisque c'était dans Wolfenstein 3D. Mecha Hitler. Qui veut nous parler de Mecha Hitler? Angel.
Allez.
Très envie.
Tout le monde s'en rappelle déjà Mecha Hitler quoi. Et là tout est dit.
Ouais, voilà, ça se passe de commentaires. Voilà, bah, Mecha Hitler, c'est Hitler
mécanisé.
Mécanisé avec des grosses mitrailleuses à la place des mains quoi.
Ouais. Et c'est peut-être dans un aquarium.
Exact.
Je crois que c'est un des vilains les plus kitsch que j'ai jamais buté.
D'ailleurs, le strip 201 de Candy.
Exact. Donc Candy finalement on parle beaucoup mieux. mais c'est marrant de voir que pour le remake qui sont enfin le remake, le nouveau Wolfenstein qu'ils sont en train de faire, les mecs ont déjà dit non, il y aura pas de Mecha Hitler. Faut pas s'attendre parce que bon,
fois,
c'est
sorti du coup
que c'était quand même un petit peu de mauvais goût en fin de compte.
C'est juste super too much quoi. Ouais. C'est voilà, il est ridicule et en même temps de super mauvais goût.
Mais il avait l'air super vilain, un peu comme le vrai.
C'est surtout la moustache, mec.
Mais surtout, ça signifiait qu'il était pas mort parce que Mecha Hitler, c'est-à-dire que son cerveau
a
survécu,
mec.
Et ils ont greffé une espèce de machine androïde sur lui quoi.
Attends, il y a un scénario dans Wolfenstein, ça déchire.
Dans le réseau Voltaire.
Allez, toujours en 92, un autre jeu marquant, jeu de combat, Mortal Kombat, et un autre boss, hein, complètement ridicule lui aussi, il s'agit de Goro. Qui veut parler de Goro?
Monsieur plein de bras.
Monsieur, voilà, monsieur 6 bras. Six bras.
Ouais.
Six ou
le héros, le 4 bras avec le héros de pâte à modeler.
Et le mec complètement débile aussi, parce qu'il est.
Ah ouais.
Voilà. Il avait pas que l'air débile.
Ah, il a l'air débile, il se bat, il ressemble à rien, et en plus, il est fait vraiment animation, pâte à modeler.
Ouais, c'était ça qui était drôle surtout. C'était... D'ailleurs, moi je me souviens dans Joypad à l'époque, excusez-moi de me rappeler encore ça, on avait fait un montage avec Olivier Prézo, qu'on avait surnommé Goro Olivier. On a fait un montage avec Olivier, évidemment, avec 4 bras, un montage tout pourri, un montage photo tout pourri. Donc,
Est-ce que c'était Goro Shadé?
C'était
oh
Goro Shadé,
oui, c'est vrai.
Tout à fait, tu as parfaitement raison.
Formidable.
Goro Olivier, un des super boss de l'histoire de l'humanité.
Dans les épisodes suivants, je crois que pas dans le deuxième mais dans le troisième, ouais, je m'y connais en Mortal Kombat, je dois être le seul. il a droit à sa femelle.
Oh, formidable.
Oh, c'est mignon.
Voilà, c'est tout.
Elle aussi, elle a 4 bras. Jamais.
Évidemment. Bien évidemment. Sûr. Et puis c'est toujours la même prise avec les bras du bas, elle te chope et avec ce duo, elle te tabasse la gueule.
Formidable. Quelle créativité.
En fait, elle a juste les cheveux longs.
Les concepteurs de Mortal Kombat.
On avait vu Come Here qui était fantastique.
Come Here. Mais ça, c'était pas lui.
Non.
C'était
Scorpion.
Scorpion. Voilà. Scorpion. Allez, 90, cette fois-ci, on arrive sur PC, Amiga, Atari ST, avec la série des Monkey Island. Et puis, alors, c'était le pirate relou, hein, comme l'appelle Traz, le Chuck.
Exact, le Chuck.
Qui c'est le Chuck?
Le Chuck, c'est une espèce de pirate.
Le bad guy.
Pirate super relou qui vit juste pour faire chier.
Qui veut surtout pas mourir à la base. Voilà. C'est même pas qu'il vit, c'est surtout qu'il veut pas crever quoi.
Il veut pas crever. Bah, en fait, il est mort, il est vivant, c'est pas trop en fait.
Je viens de réaliser d'ailleurs que le pirate des Caraïbes, en fait, ils ont pompé le scénario de Monkey Island.
Exactement ce que j'ai écrit.
Complètement, ouais, complètement.
David Jones, effectivement, le fameux pirate, c'est exactement ça quoi. C'est du piratage, c'est presque du vol quoi, c'est du plagiat.
C'est du piratage, c'est le cas de dire. Voilà, quand même.
Et après, il veut trouver Big Whoop. Voilà.
Tout à fait. Non mais c'est vraiment du plagiat, hein, je trouve. C'est assez scandaleux quoi. Mais bon.
Bah, non mais en
c'est
plus.
C'est un truc de pirate en même temps.
Mais
quoi.
même visuellement, quand il est zombifié, c'est la barbe, la barbe qui oui. bouge, etc. C'est au lieu d'avoir les tentacules, c'est vraiment quasiment
tout
la même chose.
Oui, parce que tout à la fin dans sa dernière incarnation entre guillemets, dans Escape from Monkey Island, il est tout en flammes.
Ouais.
Donc ça fait un petit peu penser à ça effectivement.
Si je puis me permettre néanmoins, Monkey Island, ça date de 1990. L'attraction Le Pirate des Caraïbes, dont existe déjà David Jones. Quand même date plutôt des années 60, hein, si je puis me permettre.
Ah non, mais à mon avis.
Donc, qui a copié qui a inspiré qui?
Ouais, c'est pas impossible, surtout possible, que. Ouais, attention, bouchez-vous les oreilles parce que je vais vous spoiler un jeu qui est sorti en 1990.
Ouais.
Donc, t'apprends dans Monkey Island 2, dans un délire bizarre, que Big Whoop, finalement, c'est un parc d'attractions.
Ah bah.
Et voilà.
Je pense que les uns et les autres se sont repiqués quelques idées. Hein,
possible, effectivement.
Et puis, okay,
effectivement,
bonne guerre. Entre pirates, c'est de bonne guerre.
Moi, j'ai rien dit, alors j'aurais pas de procès, c'est cool.
Allez, on est presque à la fin 1989. Ça y est, on vient de franchir un nouveau cap. Le boss final de Golden Axe, rapidement, Angel, Death Adder.
Rien de particulier, si ce n'est qu'il était super balèze et qu'il avait une hache et qu'il défonçait. C'était le super vilain de Golden Axe. Et d'ailleurs, pour aller très vite, je vais faire un double combo parce qu'il faisait partie donc de ces super vilains de Beat'em All. Donc il y a le boss final aussi de Double Dragon, dont la particularité c'était d'avoir une mitrailleuse, ce qui le rendait super dur à abattre parce que toi t'avais juste tes pieds et tes mains.
Et qui avait quand même un nom fantastique.
Willy. Et puis c'était le chef d'un gang.
Les Black Shadows.
Les Black Shadows qui étaient constitués de punks et de putes.
C'est génial. Bono,
et de mecs super balèzes qui ressemblaient à Mr. T.
Voilà. Bon, enfin, en tout cas, vous êtes en train de remarquer que là, quand on franchit quand même la barre des années 80, on est à fin des années 80, ça se sketchise de plus en plus et les scénarios deviennent de plus en plus légers. Hein. Donc en 88, on a Loki ou Lucifer, le boss final de Ghouls and Ghosts, Angel.
Ouais, mais non, là par contre, c'est parce que c'était beaucoup plus impressionnant techniquement. Là, le boss, il était vraiment super énorme. Quoi. C'était Lucifer assis sur son trône et il t'écrasait avec les pieds et tout. Enfin, il prenait vraiment tout l'écran.
Il te foulait. Ouais, mais en termes de créativité, ça restait Lucifer, quoi. Le truc. Pas du tout.
Ouais, évidemment.
Il faut qu'on invente un méchant.
En même temps, c'était quand même Ghouls and Ghosts. Bon, ça tapait quand même vachement dans les trucs maléfiques.
Ouais, c'est vrai. Donc,
des gargouilles.
Il n'y a personne de plus maléfique que Lucifer lui-même. Ouais. Tu vois. Peut-être Raon, mais on sait pas.
Aller taper Lucifer en caleçon, faut oser quand même.
Hein. Raon en caleçon aussi.
On ne testera pas. 1986, la NES. Metroid et la naissance de Mother Brain. Alors cet être étrange là, espèce de cerveau là qui avait été battu sur la planète Zebes et qui avait été ressuscité par un pirate de l'espace, Ridley. Oh tiens donc, Ridley.
Hommage.
Pirate de l'espace, Ridley, Julo.
Non mais cela dit, au moins c'était original. non, très sérieusement.
Ok, merci Julo, on a bien ri.
Très sérieusement, le boss final c'était un cerveau quoi.
Ouais.
Bah voilà. Et alors, c'était pas un mec avec une hache ou.
C'est vrai.
Voilà. Et puis finalement, ou Satan.
Et finalement, Metroid était très original parce qu'en plus de ce boss-là, on apprenait qu'en fait le héros était une femme.
Héroïne.
Et pour ceux qui sont des fidèles des podcasts de Gameblog, vous rappellerez que Mother Brain, donc le méchant de Metroid, était aussi le surnom que les employés de Nintendo donnaient
à son ancien patron Yamauchi.
Voilà, patron de Nintendo de l'époque, Monsieur Yamauchi. Donc en gros, un espèce de big boss au cerveau tentaculaire et démoniaque. Voilà, ça fait rêver. Allez, cette fois-ci, on franchit un autre cap. On arrive en 1981 et on ne pouvait pas l'oublier forcément. Et oui, à l'époque, il n'était pas gentil. Il ne tapait pas sur des tam-tams. Il s'agit de...
Mitterrand ? Non.
Non, il s'agit de Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong qui était quand même le méchant du jeu Donkey Kong, la première apparition de Mario, qui s'appelait pas Mario à l'époque, Raon.
Qui s'appelait Jumpman.
Exactement.
Oui, et parce qu'il sautait sur des tonneaux que balançait Donkey Kong.
Voilà. Encore un scénario de la mort, donc du coup à l'époque.
Exactement. Pas du tout inspiré de King Kong.
Non,
du tout.
Tu dis ça. Hein,
voilà, donc c'était une époque où effectivement le jeu vidéo quand même pompait tout ce qu'il pouvait. Hein,
c'était le début, attends.
C'est vrai. Déjà, il fallait passer beaucoup de temps pour coder les trucs. Bon, ça n'a pas changé aujourd'hui, mais il y avait moins de personnes. On était à deux.
Le scénario.
Donc, et pourtant, on a toujours des scénarios un peu bizarres. Hein.
Il se réveille sur une plage, il a perdu la mémoire.
Voilà. Arrêtez. Ils sont pas 300 à écrire l'histoire.
Allez, on finit avec les derniers méchants. Et oui, il n'est pas tout seul. Les derniers méchants de ce podcast dédié exclusivement, vous l'aurez compris, hein, aux méchants les plus cultes de l'histoire du jeu vidéo, c'est 1979. Ils sont multicolores. Et il s'agit des fantômes de Pac-Man, qui à l'époque s'appelait Pac-Man d'ailleurs au tout début. Pac-Man. Alors là, ils sont méchants, mais à la fois, ils font pas vraiment flipper. Hein,
non, bon, surtout le rose en fait. Le rose, il est super flippant.
Il est anxiogène, mais on peut le bouffer aussi.
Mais par contre, quel plaisir quand on bouffe la pastille et qu'on peut le coircer.
Ouais, mais par contre, il se barre bien. Hein. T'as remarqué qu'il se barre bien quand même, il cavale. Hein.
C'est très intéressant cette conversation.
Et puis n'oublions pas que le générique du dessin animé Pac-Man en France était interprété par William Lémergie.
C'est vrai.
Que vous pouvez bien évidemment télécharger sur YouTube. Hein, vous faites William Lémergie, Pac-Man.
On peut le télécharger, on peut le regarder.
C'est Pac-Man. Pac-Man. Et bien
c'était William
Lémergie. Exactement. Voilà.
C'est pour ça qu'il tabasse les gens.
J'aurais appris un truc.
Donc voilà, ainsi s'achève ce podcast 101.
On aurait pu parler de la raquette adverse de Pong.
Ouais, j'ai pensé à un moment, puis je me suis dit que non, en fait.
Ah ben non, mais forcément, on en a oublié énormément. Hein. Ceux qui sont fans des Tomb Raider pourraient penser à Natla, les Space Invaders. Bon, on en a parlé rapidement, les petits ennemis qui descendaient.
Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais.
Et puis bon, il y a tellement de jeux, et à chaque fois, globalement, ils ont tous un méchant.
Mais c'est clair, mais bon.
Le Domenech dans PES. Mais...
c'est pas très gentil.
Non, mais ça, c'est un méchant pour la France entière, en fait.
Mais
c'est un
bon.
Peu le souci.
Dans World
mais bon,
Warcraft...
voilà, ça vous laisse libre cours comme ça dans les forums de dire, vous, les méchants qui vous ont particulièrement marqué. Peut-être que certains sont dans ce listing. qui n'est certes pas exhaustif, mais qui est quand même assez conséquent. Vous l'aurez compris, hein, 1h30 de podcast. Il faut s'arrêter maintenant, on aimerait respirer un petit peu. Et puis voilà, bah, parler de ceux qu'on aurait oubliés, qui vous ont particulièrement tenu à cœur, qui vous ont marqué dans votre enfance
et
ou récemment. Hein.
Et pourquoi vous ont-ils tant marqué ?
Pourquoi sont-ils si méchants ? Qu'est-ce qui fait un bon méchant ? Si vous pensez que nous n'avons pas intégralement répondu à la question, eh bien c'est à vous maintenant hein, de partager ça dans les forums de Gameblog. Nous, on se donne rendez-vous, hein, comme d'habitude, mercredi prochain, ce sera le podcast 102, et nous serons, allez, à quelques encablures de l'E3, qui se rapproche énormément, et qui va faire comme ça bondir l'actualité jeux vidéo tout au long du mois de juin avec Gameblog. Ah, ça va vraiment être énorme, on a hâte d'y être. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien, et surtout, jouez bien.
Ciao, ciao, ciao.
Thank you.